Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil et très belle année à tous. Il est 7h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le bilan des victimes françaises s'alourdit après le drame de Crans-Montana en Suisse. 9 Français parmi les 40 morts. 23 départements en plein hiver polaire, neige et verglas s'abattent ce matin sur l'ouest de la France. Et les cabinets et les cliniques seront désertés aujourd'hui et ce pour 10 jours. Les médecins entament une grève partout en France.
Le bilan des victimes françaises est revu à la hausse après le drame de Crans-Montana.
Ouais, l'identification des corps est terminée. L'annonce a été faite hier par les autorités suisses. Justement, Ameline Lafchin, vous êtes en direct de Crans-Montana pour RMC. 9 Français font donc partie des 40 personnes décédées la nuit du Nouvel An.
Oui, et parmi eux, 3 sont mineurs. Le plus jeune n'a que 14 ans. Les deux autres, eux, sont âgés de 15 et 17 ans. Parmi les victimes qui ont péri dans l'incendie, il y a aussi un jeune homme de 20 ans, une femme de 33 ans et une jeune Toulousaine de 26 ans partie fêter la nouvelle année dans le bar Le Constellation le soir du drame. On sait également que parmi les victimes françaises, 2 d'entre elles y travaillaient ce soir-là. Il y a d'abord Siane, une serveuse franco-suisse, âgée de 24 ans, originaire de Sète dans l'Hérault, et le DJ de la soirée, Matteo, 23 ans, originaire d'Angers. Enfin, le plus âgé est un Vosgien, Giovanni, 39 ans, père de 2 enfants de 3 et 5 ans. Il était parti s'installer en Suisse il y a 3 ans. Le Quai d'Orsay précise aussi que lors de l'incendie, 23 Français ont été blessés et que 6 d'entre eux sont sortis de l'hôpital.
Ameline Lafchin, envoyée spéciale RMC à Crans-Montana en Suisse.
Et si vous voulez témoigner aussi de la question des normes de sécurité dans les bars, dans les boîtes de nuit, n'hésitez pas à nous appeler au 3216 parce qu'on en reparlera juste après votre journal, Clément, avec le patron de l'Union des métiers de l'hôtellerie d'Île-de-France. Il est 7h02 sur RMC et le grand froid s'installe sur la France.
3/4 du pays est concerné, particulièrement 23 départements de la Charente-Maritime à l'Île-de-France en passant par le Finistère. Vigilance orange pour risque de neige. Justement, Martin Lange, vous êtes en direct de Liffré en Ille-et-Vilaine et aucun transport scolaire ne circule aujourd'hui.
Oui Clément, rentrée scolaire perturbée ce lundi. La décision de suspendre ces transports scolaires a été prise hier soir un peu après 19h pour toute l'Ille-et-Vilaine. Les 3 autres départements bretons sont aussi concernés mais l'annonce a été faite bien plus tard, vers 21h environ. Des mesures de précaution évidemment, même si ce n'est pas toujours facile pour les parents de s'organiser dans un délai si court. Alors pour l'instant, là où je suis à Liffré, la neige n'a pas encore fait son apparition, mais le verglas est bien présent sur la route avec beaucoup de givre également. Concernant les flocons, ils commencent à tomber sur la Manche, en Normandie, un peu au nord, et devraient atteindre la Bretagne en fin de matinée. 3 à 7 cm sont annoncés, jusqu'à 10 cm sur les hauteurs. Une neige qui pourrait tenir toute la journée grâce aux températures négatives annoncées. C'est ce qui inquiète d'ailleurs les autorités qui ont aussi limité la circulation des poids lourds. Interdiction totale sur le réseau national et restriction de vitesse sur les autres axes.
Martin Lange, en direct d'Ille-et-Vilaine pour RMC. Un énième féminicide en France, cette fois-ci à Brest. Une femme a été retrouvée morte hier matin à son domicile. Son compagnon, déjà connu des services de police pour des violences conjugales, a été interpellé et placé en garde à vue.
La colère des médecins ce matin.
Une fermeture de cabinets médicaux, report d'opérations. Plus de 13 000 médecins entament aujourd'hui 10 jours de grève. Objectif, protester contre certaines mesures dans le budget de la sécurité sociale, notamment le contrôle des prescriptions d'arrêt de travail. La mobilisation s'annonce massive. Reportage de Pierre Bourgès.
Dans sa salle d'attente, des affiches préviennent ses patients. Le cabinet d'Hermann Neufer sera fermé ce début de semaine et il fait grève.
Je suis un passionné dans mon métier. À un moment, je vais partir à la retraite et partir usé, c'est horrible. J'ai jamais imaginé que ça puisse arriver un jour.
En 30 ans de métier, il n'avait jamais vu sa profession autant attaquée, dit-il. Et parmi les mesures qui le choquent, cette mise sous objectif des médecins qui prescrivent trop d'arrêts de travail sous peine d'amende.
Je fais quoi ? Je refuse un arrêt de travail à une personne déprimée au risque qu'elle elle va se suicider, ou alors je l'arrête quand même, et c'est moi qui va payer jusqu'à 15 000 euros si je rentre pas dans les objectifs.
Les patients sans médecin pourront quant à eux appeler le 15 s'il y a une urgence, précise Sophie Bauer, présidente des syndicats des médecins libéraux.
Que ce soit gênant, on en a conscience, mais à un moment, c'est le seul moyen, je dirais, de défense que nous avons. Notre profession est attaquée de toutes parts par un certain nombre de parlementaires qui, encore une fois, ne se rendent même pas compte de ce que nous faisons au quotidien. Et bien là, ils vont voir ce qu'on fait au quotidien puisque nous ne le ferons plus.
Et pour assurer la continuité des soins, des réquisitions de médecins pourront être ordonnées, a prévenu la ministre de la Santé hier.
Et appelez-nous au 3216, vous êtes patient ou soignant. Appelez-nous justement pour témoigner et ne manquez pas à 7h40 le docteur d'RMC, Jérôme Marty, qui sera en direct dans Apolline Matin.
Une image historique, Apolline, qui va faire le tour du monde. Le président vénézuélien déchu, Nicolas Maduro, sera présenté à 12h heure française devant un juge fédéral de New York. Objectif, répondre à de lourdes accusations, narcoterrorisme et trafic international de cocaïne. Alors comment les Vénézuéliens réagissent à cette intervention américaine ? Alfred Orange est allé à la rencontre de la communauté vénézuélienne en région parisienne.
De la musique et une légèreté retrouvée. À l'heure où 2026 débute, la capture du président Maduro est déjà la meilleure nouvelle de l'année pour Arlène, vénézuélienne installée à Paris.
Ce moment, c'était incroyable, vraiment. J'ai eu envie de pleurer, de crier, parce que c'est un moment qu'on attend depuis longtemps.
À côté d'elle, Daniela le certifie, tant pis si l'intervention américaine a été brutale.
Je sais que c'est très polémique parmi beaucoup des gens en Europe. Ils sont contre l'intervention de Donald Trump, mais il n'y avait pas de moyens pacifiques de résoudre ce problème.
Parce que la situation dans le pays est devenue invivable, assure Barbara, qui a fui Caracas il y a 3 mois.
Là-bas, tous les jours, c'est l'incertitude. Tous les jours, on se réveille avec cette angoisse. Comment je fais pour trouver du boulot, pour étudier, pour manger ou pour trouver de l'argent?
Mais pas question pour Gilles que Donald Trump gouverne le Venezuela.
Aux Vénézuéliens de gérer et mettre en ordre tous les problèmes qu'il y a, pas les Américains.
Avec l'espoir pour ce musicien de tourner enfin la page du régime de Nicolas Maduro qui, dit-il, n'a fait qu'appauvrir notre pays.
Washington n'envisage une coopération avec Caracas que si le pouvoir en place change de cap. Si ce n'est pas le cas, l'embargo pétrolier restera en vigueur. La Maison-Blanche jugera désormais le Venezuela sur ses actes. Justement, la présidente par intérim du Venezuela plaide pour une relation équilibrée et respectueuse avec les États-Unis. RMC 7h07, le PSG remporte le derby parisien en Ligue 1. Le Paris FC n'a pas démérité hier soir, mais à la fin, ce sont les partenaires d'Ousmane Dembélé qui se sont imposés 2-1, Arthur Perrault.
Oui, les joueurs du Paris FC s'attendaient à un véritable cauchemar chez leurs voisins. Finalement, le milieu de terrain Maxime Lopez repart la tête haute.
Je trouve que ça va, on s'est battu avec nos armes, on a fait des choses intéressantes. Après oui, bien évidemment, on n'a pas fait un match non plus extraordinaire, mais moi je suis content parce que je pense qu'il y a énormément de personnes et de monde qui pensaient qu'on allait prendre une route aujourd'hui. On l'a pas prise, après les gens diront oui en mettant le bus, mais j'ai pas pris une route aujourd'hui, ça je suis très content.
Le PSG décroche un 11e succès en 17 journées grâce aux stars Ousmane Dembélé et Désiré Doué, satisfait de remporter ce match particulier.
On avait à cœur de gagner ce match, c'est important. On joue contre le Paris FC, nous on est le Paris Saint-Germain. C'était important de démontrer que voilà, on doit gagner ce genre de match et ce genre de derby.
Un constat partagé par l'entraîneur Luis Enrique.
J'espère que nous pouvons jouer dans l'avenir plus de derby. Ce sont des matchs différents et on aime avoir Paris FC dans la Ligue 1.
Mais le Paris FC aura l'occasion de prendre sa revanche dans une semaine au Parc des Princes, lors des 16e de finale de la Coupe de France.
Au classement, Lens est leader et compte un point d'avance sur le PSG et 8 sur le 3e, l'OM. L'OM qui a débuté l'année avec une défaite à domicile 2-0 contre Nantes.
Merci Clément, c'était le journal de Clément Guizzi. 7h08, au 32-16, vous nous appelez pour témoigner des conditions sur la route. La neige, 23 départements en vigilance, neige et verglas, tout l'ouest de la France quasiment. Et il y a Johan qui est avec nous au 32-16 et qui nous appelle d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Johan.
Bonjour, bonne année, meilleurs vœux à vous.
Bonne année à vous, meilleurs vœux, la santé et la prudence sur les routes. Johan, vous êtes...
Bien entendu.
Vous êtes conducteur d'engin, sous la neige, oui. Là
Non, pas encore la neige, là. Sur la route, il fait froid, c'est le verglas sur les petites routes départementales, mais sur l'autoroute entre Rennes et Fougères, ça roule plutôt pas mal pour l'instant.
Ça roule encore, mais quand vous dites verglas, c'est-à-dire que pour vous rendre sur l'autoroute, vous avez fait gaffe, quoi.
Oui, voilà, oui. Oh, oui, bien sûr, ouais. 50, 60 km heure max, parce qu'on voit bien que, c'est gelé, ça brille sur la route, donc, méfiance.
Méfiance, il fait combien là au compteur?
Là, c'est où je suis, moins 4.
Moins 4 et vous êtes où exactement?
Je suis à Fougères.
À Fougères. Géraldine, oui. Qui est avec moi, on appelle à la prudence sur tout l'Ouest. Hein.
Oui, effectivement, parce que là, pour l'instant, les chutes de neige, c'est plutôt près de la Manche, mais elles vont se décaler plus vers le sud. Donc l'Ille-et-Vilaine sera plutôt vers le milieu de la matinée qui va commencer à neiger. Et effectivement, même quand il neigera plus, le problème, ça va être le gel, puisqu'il va faire encore très froid aujourd'hui. Et la nuit prochaine, donc jusqu'à demain matin, ça va être effectivement très glissant.
Et on le rappelle, il n'y a pas de transport scolaire sur toute la Bretagne et la Normandie ce matin. Merci Johan, soyez prudents, bonne route à vous. Il est 7h10 sur RMC. Ce drame qui a fait évidemment réfléchir toute une profession. Après l'incendie de Grand Montana en Suisse, le dernier bilan fait état de 40 morts, dont la moitié sont mineurs. Faut-il interdire les bougies étincelantes? Faut-il revoir la sécurité dans les bars dansants? Bonjour David Zenouda.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio avec nous ce matin. Vous représentez les patrons de bars et de boîtes de nuit en Île-de-France. Votre parti pris ce matin, c'est que oui, il faut faire évoluer les normes de sécurité pour la sécurité de tous. Et vous nous le dites dans un instant avec vos témoignages aussi au 32-16, il est 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14, merci d'avoir choisi RMC pour commencer l'année. Sommes-nous en sécurité quand on sort danser dans un bar après l'incendie à Grand Montana en Suisse? Le drame absolu, eh bien on se pose évidemment la question et on se la pose ce matin sur RMC. 40 personnes décédées, la moitié étaient des mineurs, 9 Français parmi ces décédés. Bonjour David Zenouda. Bonjour. Vous êtes restaurateur, vice-président de l'UMIH d'Île-de-France. Vous représentez l'hôtellerie, restauration, les bars, les restaurants. Et votre parti pris ce matin, c'est que il faut renforcer les normes de sécurité aussi en France. Ça vous a interrogé? Ça vous interroge tous?
Oui, évidemment. Ce drame nous remet en question toute notre profession, même si, encore une fois, on est dans un canton en Suisse et on n'est pas en France. Et la législation en France est évidemment assez drastique et très contrôlée dans
tant
nos
mieux,
établissements. Tant mieux, bien évidemment. Vous savez qu'on a eu un certain nombre de drames, à la fois dans le monde depuis une vingtaine d'années, et puis en France, il y a une dizaine d'années, notamment à Rouen, dans ce bar de nuit, où les causes étaient exactement les mêmes. Donc là, c'est plutôt de la malveillance et de la négligence, on va dire, de la part des propriétaires de ces établissements, plutôt que des, on va dire, que et des normes de sécurité qui ont été pas respectées. Alors que depuis maintenant 8-9 ans, on le sait, les contrôles sont réguliers, la vigilance est accrue, et puis encore plus demain, parce qu'avec
ce que vous voulez dire, c'est que depuis Rouen, la France a tiré les leçons. Est-ce que vous vous dites ça ne pourrait pas arriver aujourd'hui chez nous? En tout cas, avec les contrôles qui sont faits, avec les normes de sécurité, si elles sont bien appliquées.
Vous savez, tout peut arriver. Tout ce qui s'est passé, c'est une étincelle qui a déclenché ce drame. Et c'est une étincelle, et puis toute une chaîne d'événements qui ont fait que malheureusement, on en est arrivé à ce drame. Vous savez, aujourd'hui, dans un restaurant, quand on fait une crêpe Suzette devant le client, le danger est tout aussi important. C'est une question de manipulation, c'est une question de professionnalisme. Et aujourd'hui, ces fameux scintillants, il faut les interdire.
Les scintillants, ce sont donc ces espèces de bougies qu'on met souvent sur les gâteaux d'anniversaire. Et là, ils étaient attachés au culot de la bouteille de champagne, elle-même levée très haut par ces jeunes. Et ça a touché le plafond. Il faut les interdire, ces scintillants.
Oui, surtout qu'on ait des solutions.
Ça suffit, quoi. On met des bougies.
On met du LED.
Vous savez,
il y a déjà des... les entrepreneurs sont très réactifs et ont déjà proposé sur le marché des solutions où on met du LED sur les bouteilles qui ont exactement le même effet que les scintillants. Minimisons les risques. Prenons en cause cette...
Donc, on interdit les scintillants. Est-ce que il faut aussi revoir la distinction entre bar, boîte, lieu de danse? On a l'impression que là, il y avait un peu tout mélangé, mais il n'avait pas l'appellation discothèque à proprement parler, qui est beaucoup plus contraignante en termes de sécurité.
C'est cela. Il y a une vraie confusion aujourd'hui dans l'esprit du grand public, mais c'est vrai qu'avec cet événement, on est en train d'expliquer un peu la différence. Et puis, les mœurs ont évolué depuis une trentaine d'années. On danse un peu partout. On danse dans un bar, on danse dans un restaurant, on danse dans un café. Aujourd'hui, on danse même dans des PMU. Donc, il faut... et on n'est pas des discothèques. Donc, en fait, le principe de danser dans un établissement, c'est est-ce que la danse est accessoire, est-ce que la danse est l'élément principal de l'établissement.
Et en fonction de ça, c'est une classification, c'est une réglementation qui est différente. Qu'est-ce que vous demandez, vous, à l'UMI ?
Alors, c'est une classification qui existe déjà. Il y a un type qui s'appelle le type P pour les discothèques et un type N pour les cafés, bars, restaurants. Il est vrai que le chemin à faire entre les bars et la discothèque est encore un peu long. Il faut une classification pour rassurer tout le monde, à la fois les discothèques, parce qu'elles se disent il n'y a pas de raison que nous, on soit contraints à énormément de règles, et que les bars, non, puisqu'ils font danser occasionnellement et non pas quotidiennement. Et les bars ont besoin d'être assurés, et les assureurs aussi.
J'imagine qu'il y a aussi cette question-là, et puis ceux qui fréquentent tout simplement ces endroits. Est-ce que dans les jours qui ont suivi donc le drame de Grand Montana, est-ce que vous constatez aujourd'hui une baisse de fréquentation ? Est-ce qu'il y a eu une forme d'inquiétude, en tout cas de choc ?
Alors là, on était sur le premier week-end juste après le jour de l'an, donc effectivement, c'était pas encore la fin des vacances. Il y a un vrai choc, il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience de la part des professionnels. On a vu sur tous les réseaux sociaux un certain nombre de professionnels qui ont décidé d'arrêter d'utiliser ces bougies.
Ces fameuses bougies.
Et puis, il y a une vraie prise de conscience pour rassurer la clientèle. Parce que si on ne prend pas conscience que dans nos établissements, il faut qu'on soit en sécurité et qu'il y ait des éléments qui rassurent nos clients, là, il faut changer de métier.
Donc, rassurons tout le monde pour pouvoir effectivement faire la fête, mais en toute sécurité. Les bougies étincelantes doivent être arrêtées. Merci en tout cas de le dire ce matin. David Zenouda, vice-président de l'UMI Île-de-France. Vous représentez donc les patrons des bars et des boîtes de nuit. Il est 7h19 sur RMC. Et c'est l'historien d'Apolline Matin qui vient de rentrer dans ce studio. Bonne année, Arthur.
Bonne année, Apolline.
Arthur Chevalier, la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro ce week-end rappelle au monde que les États-Unis sont bien les maîtres de l'Amérique.
Et oui, les États-Unis ont même inventé une doctrine pour justifier leurs interventions. Ça s'appelle la doctrine Monroe. Et ils l'ont déjà appliqué pour enlever d'autres chefs d'État avant Maduro.
Vous nous l'expliquez dans un instant. On dira aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas. On se retrouve dans 60 secondes sur RMC 7h19.
RMC, Apolline Matin.
7h21, bon réveil à tous. Quand l'histoire éclaire notre actualité, avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Très belle année. Et bonheur de la commencer avec vous. Le président déchu du Venezuela, Nicolas Maduro, doit être présenté aujourd'hui au juge américain. Et lors de sa capture ce week-end, Donald Trump a justifié cette intervention en évoquant la doctrine Monroe.
Et oui, il a même ajouté que cette doctrine était très importante pour les États-Unis. Alors, ce qu'on appelle la doctrine Monroe, c'est un pilier de la diplomatie américaine. C'est ce qui leur permet, en gros, d'intervenir où ils veulent et quand ils veulent sur le continent américain.
Alors d'abord, qui était ce Monroe ?
Alors, Monroe s'appelait James Monroe. C'est le cinquième président des États-Unis. Et pendant son mandat, en 1823, il pose une nouvelle règle. Cette règle, la voici. L'Europe ne doit plus intervenir dans les affaires américaines, y compris en Amérique du Sud. Autrement dit, ici, c'est chez nous. Alors, à l'époque, ça faisait du sens, puisque les pays européens se permettaient effectivement d'intervenir un peu où ils voulaient, quand ils voulaient. En échange, les États-Unis s'engageaient, eux, à laisser l'Europe tranquille. Bref, c'était la politique du chacun chez soi.
C'était plutôt pacifique ?
Alors, sur le papier, vous avez raison, c'était plutôt pacifique. Sauf que, dans les faits, ça va très vite devenir un prétexte pour justifier tout et n'importe quoi. Au nom de la doctrine Monroe, les États-Unis vont devenir les gendarmes de l'Amérique du Sud. Alors, en apparence, c'est toujours au nom de la stabilité du continent. En réalité, dès qu'un de leurs voisins ira contre leurs intérêts, les États-Unis interviendront militairement.
Comme par exemple à Porto Rico ?
Exactement. En 1898, les Américains envahissent Porto Rico. Ils prennent le contrôle de la monnaie, de l'armée, du territoire. Et aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, Porto Rico est toujours, Apolline, sous le contrôle des États-Unis. Porto Rico a une autonomie, mais n'a pas de souveraineté. Ils ne peuvent rien faire sans l'aval de Washington. Voilà, c'était une des premières applications concrètes de cette doctrine Monroe.
Avant l'arrestation de Nicolas Maduro, il y a eu des précédents ?
Alors, il y en a eu, mais pas tant que ça, puisque les Américains sont effectivement beaucoup intervenus en Amérique du Sud, 42 fois au total quand même, mais ils vont très rarement jusqu'à arrêter des chefs d'État. C'est arrivé en fait deux fois. D'abord en 1983, l'armée américaine envahit l'île de Grenade dans les Caraïbes. Le Premier ministre est arrêté et remplacé par un gouvernement provisoire. Et la deuxième fois, c'était en 1989, cette fois, ils envahissent le Panama et ils arrêtent son président qui s'appelait Noriega. Comme Maduro, Noriega était accusé de favoriser le narcotrafic. Alors soyons clairs, à chaque fois les Américains s'attaquent à des dictateurs qui exercent le pouvoir par la force, ce qui relativise un peu ce comportement impérialiste.
Donc finalement l'histoire se répète.
Oui,
Et non. Et non, puisque le Venezuela, ça n'a rien à voir avec Grenade ou le Panama en termes de taille et d'importance. Hein. C'est la première fois de leur histoire que les États-Unis enlèvent le président d'un aussi gros pays en Amérique du Sud. Donc c'est un tournant. Cette opération, c'est un avertissement pour toute la région. Si des chefs d'État veulent s'opposer à Donald Trump, ils savent désormais à quoi s'attendre.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Arnaud Demanche nous rejoint.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud.
Bonjour et bonne année.
Bonne année
les amis, bonne année Apolline.
Une bien belle année 2026.
Oui.
Dans le face-à-face tout à l'heure, on la commence très très bien cette année puisque ce sera la porte-parole du gouvernement, parce qu'on a un gouvernement.
Oui.
Et elle s'appelle Maud Bréjon.
Oui, on l'avait un peu oublié qu'on avait un gouvernement pendant les fêtes, mais on en a un. Oui. Redécouvrir notre gouvernement après le réveillon, c'est waouh, hein, ça ouf. C'est comme se réveiller avec une grosse gueule de bois et être à poil dans son lit entre Monique Barbu et Laurent Panifou.
Non.
Qu'est-ce que j'ai fait? Fais-moi un bijou, Arnaud. Non, Monique, tu piques. Tu es Barbu. Et tu veux pas même manger le Panifou aussi? Non, tu arrêtes, Laurent. Donc une nouvelle année qui commence en compagnie d'Emmanuel Macron qui nous a souhaité ses bons voeux. Alors dans une ambiance. Ah, j'avais envie de battre du pied moi en même temps, caliente. J'avais envie de lancer une queue-leu-leu. Il était là, mes chers compatriotes, bonne année. Nous allons voter le droit à mourir dans la dignité et c'est la guerre. Le pauvre, mais quel calvaire! Il devrait y avoir une loi pour avoir le droit de finir son mandat dans la dignité. Là, c'est pas pour ça. Alors, pour Noël, on avait commandé un budget 2026, souvenez-vous. Là, on est en 2026. On n'a pas eu de budget 2026. Il serait temps. Du coup, Maud Bréjon va devoir s'expliquer chez vous, mais on sait qu'elle aime pas ça. Quand elle est sur la défensive, vous avez remarqué, on dirait une ado blasée qui a pas rendu son devoir à temps. Elle est là, non, ouais, c'est bon, non, mais si vous voulez, moi je suis là parce que le président avait promis un budget, et bon, voilà, on en a pas, quoi. Donc, c'est bon, quoi. On va en avoir un bientôt. Qu'est-ce que vous me prenez la tête? Vas-y, l'État, il fonctionne. Merde, je sais pas. On a limité l'inflation. Le gouvernement est au travail. Donc, au bout d'un moment, je sais pas, faut arrêter de me briser les ovaires, quoi. J'ai eu ma belle famille pendant 15 jours. On est le 5 janvier. Les nièces qui crient, qui courent partout, qui m'ont écrasé de la bûche sur mon tapis blanc. J'ai la tête comme ça, ça va, quoi. Si j'ai des problèmes. Ça va être que ça pendant 25 minutes. 25 minutes de ça. Et puis, alors, on en parlait avec Arthur. Les États-Unis ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro. Et alors, à la base, il pensait aussi kidnapper le premier ministre français pour affaiblir l'Europe, pour choper le Groenland. Mais ils l'ont pas fait parce qu'ils étaient pas sûrs de savoir qui c'est en ce moment. La tête à force, ils sont rentrés dans Matignon, ils ont croisé Sébastien Lecornu avec son vieux pull Uniqlo avec un trou et son sac à commission avec les poireaux du marché. Ils se sont dit, non, c'est, ça peut pas être lui, le chef du gouvernement français. Et ils sont partis. Ouf, on l'a échappé belle. Allez, rendez-vous à tout à l'heure avec Maud Bréjon, même si ça la saoule, quoi. Ça, se lever à 5h du mat, c'est bon, se faire engueuler sur la radio de Moscato, hein, 5 janvier, vas-y, merci beaucoup. À 8h30. À tout à l'heure.
Plaisir de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué.
Ah, bon.
Il est 7h26. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et puis attention, attention à ne pas tomber malade. On va parler de la grève des médecins à 7h40 avec Jérôme Marty. Et puis Louis Sarkozy, la voix de droite est de retour. Ce sera donc à 7h50. À tout de suite. RMC 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Danjean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ça n'est pas le moment de tomber malade. Les médecins entament 10 jours de grève aujourd'hui pour dénoncer le nouveau budget de la Sécurité sociale. Et pour faire face, le ministère envisage de réquisitionner des praticiens. L'identification des victimes a pris fin hier après l'incendie du Nouvel An à Crans-Montana en Suisse. Et le bilan est très lourd. 20 des 40 morts étaient mineurs. On compte également 9 Français. Et puis, qui est aux commandes au Venezuela? Donald Trump assure que c'est lui et son administration après l'arrestation du président Maduro, qui sera présenté à un juge cet après-midi.
C'est un mouvement qui s'annonce très suivi.
Celui des médecins, des villes, des cliniques et même des cabinets spécialisés qui vont tour à tour se mettre en grève à partir d'aujourd'hui et pour les 10 prochains jours. Un mouvement coup de poing en pleine épidémie de grippe pour protester contre plusieurs mesures du budget de la sécurité sociale et notamment la limitation des arrêts maladie. La mobilisation s'annonce massive. Pierre Bourgès, et il va falloir s'organiser.
Oui, attention, si vous avez rendez-vous chez le médecin, 85% des professionnels fermeront leurs portes au moins une journée cette semaine, selon un syndicat. Ensuite, les médecins spécialistes prendront le relais de la grève à partir de samedi. En cas d'urgence, il faudra donc appeler le 15 qui déterminera s'il faut vous orienter vers un autre médecin ou si vous pouvez patienter quelques jours avant d'en rencontrer un. Certains praticiens qui resteront ouverts ont aussi prévu des actions symboliques. Ils refuseront par exemple de transmettre des données à l'assurance maladie. Si c'est le certificat de votre médecin, il vous faudra envoyer vous-même votre feuille de soins à la Sécu. Pour assurer la continuité des soins, des réquisitions de médecins pourront être ordonnées, a prévenu la ministre de la Santé hier.
Et ne manquez pas juste après ce journal à 7h40, le médecin généraliste Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. Et puis je vous attends au 32-16. Est-ce que vous soutenez ou pas ce mouvement des médecins? Dites-nous.
Un nom et un visage pour chaque défunt. Les 40 victimes de l'incendie de Crans-Montana en Suisse ont toutes été identifiées 4 jours après le drame survenu la nuit du Nouvel An. La moitié d'entre elles étaient mineures et on compte pour l'heure 9 Français, un bilan qui peut encore évoluer. En fonction de l'état des 119 blessés, parmi eux figurent Artus, Edgar et Valentin, 3 jeunes Versaillais à qui un hommage a été rendu hier à l'église Sainte-Jeanne d'Arc où s'est rendue Solène Gardré pour RMC.
Une église pleine à craquer, si bien que des dizaines de personnes ont suivi la messe dehors, sur le parvis, comme Flavien et Gabriel.
Bah forcément, vu qu'on se dit qu'ils étaient dans les mêmes lycées que nous, on s'imagine à leur place.
Tous les jeunes sont touchés, quoi. On est tous jeunes, on sort tous, pour la plupart, et ça nous touche tous, et particulièrement à Versailles.
Car ici, tout le monde, ou presque, a un lien même lointain avec les lycéens blessés.
On connaît les gens de près ou de loin. Et si je les connaissais pas personnellement, c'est ma petite sœur qui était dans leur classe, c'est le frère d'un cousin.
Raconte Léonore, qui est venue surtout pour se recueillir.
Ce qui a été dur aussi, c'est peut-être les images aussi qui ont tourné. Donc je pense que la prière, sans images, sans histoire un peu gore et tragique, c'est quand même bien de se retrouver dans un lieu de paix. Loin de tout ça.
Un moment de solidarité, conclut Arthur.
Même si on ne les avait pas connus, ce seraient des familles qui sont touchées, des gens qui sont touchés aussi, donc c'est important d'être là.
Des hommages qui vont continuer. Mercredi, une nouvelle messe est prévue au lycée de 2 des jeunes blessés.
Il est 7h33 sur RMC. Dans quelques heures, le président vénézuélien sera présenté à un juge à New York.
Nicolas Maduro, capturé par les forces américaines samedi, va comparaître à 18h heure française pour se faire signifier ses chefs d'accusation, ceux qui pèsent contre lui. Il retournera ensuite à la prison de Brooklyn où il a été incarcéré. C'est sa vice-présidente qui a repris le pouvoir par intérim, mais à en croire Donald Trump... Ce sont bien les États-Unis qui sont aux commandes. Le président américain qui a également menacé la nouvelle présidente donc par intérim du Venezuela, ainsi que son voisin colombien. En France, c'est avec un parquet national dédié qu'on lutte contre le trafic de stupéfiants. Le PNACO, c'est son nom, voit enfin le jour 6 mois après la promulgation de la loi narcotrafic. Ces magistrats vont commencer à travailler dès aujourd'hui et recevront d'ailleurs la visite du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Mode d'emploi de ce nouvel outil avec Constance Bostoen du service police-justice d'RMC.
Le principe est d'appliquer la même logique que ce qui existe contre le terrorisme, c'est-à-dire un parquet unique à compétence nationale pour centraliser et se saisir de toutes les affaires les plus sérieuses en rapport avec la criminalité organisée, comme par exemple les affaires liées au narcotrafic. Le PNACO sera aussi bien chargé de retrouver les auteurs des règlements de compte que de remonter les circuits financiers du trafic de drogue. Dès aujourd'hui, 170 affaires complexes lui reviennent, comme par exemple celle de l'évasion de Mohamed Amra, et ces affaires seront toutes traitées par 16 magistrats, 13 greffiers et une équipe d'assistants spécialisés et d'officiers de liaison. La procureure nationale anticriminalité organisée a d'ores et déjà annoncé le renfort de 10 magistrats supplémentaires d'ici le mois de septembre prochain.
Et il va y en avoir besoin tant les règlements de compte sur fonds de trafic de drogue se multiplient. Dernier exemple en date à Marseille hier soir où un homme a été tué par balle. Quartier de Belzins. Marseille qui commence très mal l'année aussi en football avec cette défaite à domicile hier après-midi contre Nantes. L'OM a perdu 2-0 et ne s'est jamais relevé des 2 expulsions de Vermeeren et Nadir. Un match complètement raté, Florent Germain.
Oui, les amoureux de l'OM n'ont pas eu la force de rester dans les tribunes. Alors que Marseille, réduit à 9, était mené 2-0 par Nantes, le vélodrome s'est vidé. L'OM a déjà mis en colère ses supporters.
Ils ont été nuls. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Dès qu'on prend des équipes faibles, on se met à leur niveau et on est faible. Et ce soir, on a été catastrophique.
On se sent vraiment humilié. Je pense que c'est le cas de tous les supporters. Ouais. On est vraiment très déçus. C'est un peu triste de commencer l'année 2026 comme ça.
Les motifs d'inquiétude sont nombreux. Un OM sans envie et désorganisé. Le gardien Geronimo Rulli méconnaissable. L'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang fatigué. Des jeunes comme Vermeeren ou Nadir trop naïfs et logiquement exclus. Roberto De Zerbi, l'entraîneur, n'a pas vu venir ce match raté.
Je n'ai vu aucun symptôme cette semaine et je n'avais aucun mauvais pressentiment. C'est ce qui me chagrine le plus. Si j'avais senti que mes joueurs allaient arriver au match avec aussi peu d'énergie, j'aurais retourné tout le centre d'entraînement de la commanderie.
Les joueurs et le staff auront le temps de vider leur sac. L'OM s'envole dès aujourd'hui pour le Koweït, 3 jours avant le trophée des champions face au PSG, comme un stage ou un petit ritiro loin de Marseille pour chasser les doutes et la déprime.
En tout cas, les deux premières marches du podium s'éloignent pour Marseille qui reste derrière Lens et le PSG. Le PSG vainqueur hier soir face au Paris FC de Buzyn.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 15, Jasmine de Vaux. L'outsider, c'est l'As et la de Jana.
C'était le journal des Lys d'Anjan. On part à 7h37 à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Guillaume.
Et bonjour.
Et bonjour Guillaume, bonne année. Saint-Jean-de-Luz, bonne année. Où il fait combien là au moment où on se parle?
-4.
-4 à Saint-Jean-de-Luz, c'est ultra rare, non?
C'est très très rare. En bord d'océan comme ça, on descend quasiment jamais en dessous de zéro. Et là, aujourd'hui, on est à -4, donc tout est gelé. Et c'est pas désagréable.
Oui, ça doit être beau, et en effet, ça change un peu. Guillaume, vous êtes encore chez vous là au moment où on se parle?
Non, je suis au boulot déjà.
Au boulot, vous faites quoi dans la vie?
J'ai une entreprise de nettoyage.
Entreprise de nettoyage.
J'ai déjà attaqué à 5h ce matin.
Ah oui, donc vous attaquez comme nous. On est avec vous. Mathieu qui est à côté de moi vous accompagne dès 5h. Et ça ne devrait pas se réchauffer, hein, Guillaume. Géraldine
non,
qui est avec moi.
Pas tout de suite, non, pas avant la fin de la semaine. Et du côté de Saint-Jean-de-Luz, il pourrait neiger la nuit prochaine. Attention, la nuit prochaine, demain matin, ça risque d'être compliqué.
Parce que de votre côté, Guillaume, il neige quand même très rarement, hein.
Oh, c'est tous les 4-5 ans à peu près, on a de la neige.
Ouais, c'est ça.
Donc, vous êtes le cas cette année.
Et ça a des conséquences aussi sur vos employés, tout ça? Est-ce que tout le monde fait attention?
Non,
est-ce que vous êtes plus attentif ou tout le monde réussit à peu près à braver le froid?
Non, tout le monde brave le froid. On a la chance de travailler pas mal en intérieur quand même sur des résidences. Donc c'est vraiment les transferts qui sont un peu plus frigo, un peu plus froid. Mmh. Et après, là, moi j'en ai quelques-unes en extérieur ce matin, donc ça va être on se couvre. Mmh. Mais des gants et on se couvre, mais ça va, c'est gérable. Une fois de temps en temps, tout va bien.
Si c'est une fois de temps en temps, effectivement, on gère et on trouve ça même un peu féerique. Voilà, si ça dure pas trop longtemps. Merci Guillaume, en tout cas, d'être passé par le 32-16. Il y a Nicolas qui bosse avec nous ici, dont la crèche pour son enfant, ils ont pas de chauffage. Donc la crèche est fermée aujourd'hui. Vous voyez, il y a quand même des endroits où on sait pas trop s'adapter. Et ça, c'est en plein Paris. Donc on pense à lui parce
chauffage,
que la journée avec les enfants va être plus dure.
Mais sinon, moi j'ai Christophe qui a 30 degrés, mais il est à Bombay.
Ah, il est à Bombay. Et il nous écrit sur le WhatsApp de l'émission. Vous n'hésitez pas, bien sûr, comme Guillaume, vous témoignez au 32-6 ou au 32-16 ou sur le WhatsApp.
06 12 424 424.
À tout de suite donc pour la suite des témoignages. Et puis cette question à la une, si vous êtes malade, attention, parce qu'il faudra passer par le 15. Les médecins libéraux en grève pendant 10 jours, ça commence aujourd'hui. Le gouvernement est même prêt à ordonner des réquisitions. Bonjour Jérôme Marty.
Bonjour.
Bonjour docteur, médecin des GG, les grandes gueules, et puis président bien sûr de l'un des plus gros syndicats de médecins, d'un de ces syndicats qui appellent à la grève, quasiment tous les syndicats d'ailleurs, unanimité des médecins. Aujourd'hui elle sera très suivie cette grève et vous nous expliquez les raisons de la colère dans un instant. À tout de suite, 7h40.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Attention, les médecins sont en colère. En colère et en grève aujourd'hui, les médecins libéraux qui entament une grève de 10 jours et une grève qui s'annonce très suivie. Bonjour Jérôme Marty.
Bonjour Apolline.
Vous êtes le médecin le plus connu d'RMC, le médecin des GG, mais aussi président bien sûr de l'Union française pour une médecine libre, l'un des syndicats des médecins libéraux qui appelle donc à la grève aujourd'hui. Avant même de savoir pourquoi vous faites grève, je voudrais que l'on parle à ceux qui se sentent malades, qui commencent peut-être à perdre leur voix ou à sentir les premiers symptômes de la grippe. Que faire si on est malade aujourd'hui, puisque cette grève s'annonce très suivie? Est-ce qu'on peut quand même être soigné? Est-ce qu'on peut quand même appeler le docteur?
Ben écoutez, on a annoncé ce mouvement, nous, depuis 2 mois et demi et 6 mois pour la partie chirurgie. Donc le gouvernement a eu largement le temps de se retourner, le temps de préparer les choses. Là, on apprend qu'il réquisitionne à tour de bras. Il s'y prend un peu tard, probablement. La réquisition, c'est un peu l'arme des faibles. La négociation, c'est l'arme des forts. Ils préfèrent réquisitionner que négocier. Bon, pour les patients, il faut des médecins de toute façon. Donc, ils réquisitionnent. Il va y avoir des difficultés d'accès aux soins, ça c'est évident, c'est évident. Cette grève, elle va être dure, elle va être très suivie, vous l'avez dit, elle est historique. Mais on peut pas faire autrement, on a essayé de chercher d'autres moyens, malheureusement on n'en a pas. Le gouvernement n'a pas voulu nous écouter, il met en place tout un tas de mesures qui mettent à bas la médecine de France et la médecine libérale, qui s'attaquent au fondement même de la médecine, à la liberté de prescription, à l'indépendance professionnelle, il est évident qu'on peut pas laisser faire ça.
Alors, on va y revenir encore une fois, mais... vous ne m'avez pas répondu. Si on est malade, on fait quoi aujourd'hui? On appelle le 15 ou on appelle son médecin?
On trouve un médecin réquisitionné. Si on n'en trouve pas, on appelle
comment
le 15.
Comment on fait pour trouver un médecin réquisitionné? Ben, ça veut dire quoi?
Vous savez, en temps normal, c'est déjà difficile. En temps normal,
je
vous rappelle qu'il y a plus de 7 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. 100 000 Toulousains à Toulouse sur 650 000 Toulousains. Partout, il y a des déserts. Tout ça, c'est le fait justement de toutes les réformes qui ont été faites jusque-là. Et les politiques continuent dans cette même dynamique, sans écouter la profession, et donc ça va de mal en pis. Et nous, on est obligé de dire stop. Et malheureusement, quand on dit stop, ben on crée plus de problèmes pendant le temps du stop. Mais ça, on en est conscient, mais malheureusement, je vous l'ai dit, on peut pas faire autrement. On est des gens sérieux, on fait pas grève souvent. À la différence d'autres corporations, nous, on a annoncé ça des mois en avance. Ben maintenant, on y est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Et j'en témoigne, puisque plusieurs fois, je vous ai eu en direct avec moi, soit sur RMC, soit sur BFM, pour alerter. Vous disiez, attention, si les choses ne changent pas, on ira à la grève. Et on y est. Une grève de 10 jours. Vous êtes très nombreux à faire grève, parce qu'il y a non seulement les médecins, mais il y a aussi les chirurgiens, il y a aussi les spécialistes, qui parfois vont même aller jusqu'à partir de France quelques jours pour ne pas être réquisitionnés.
Ouais, et puis il y a aussi les étudiants, il y a les externes, il y a les internes, il y a les chefs de clinique, il y a les médecins seniors, il y a les médecins retraités en activité, il y a les cliniques, et vous l'avez dit, les chirurgiens, les anesthésistes, les gynéco-obstétriciens qui, eux, en deuxième semaine, c'est-à-dire à partir du 11, font un exil symbolique en Belgique. Vous avez 2500 chirurgiens qui vont partir s'exiler symboliquement avec un départ de bus organisé le 11. Et puis, vous avez 8000 chirurgiens qui lèvent le bistouri. Vous avez des services entiers qui sont fermés. 8 cliniques sur 10 qui vont fermer. Enfin, voilà, ce mouvement, il est tout à fait historique et il est à l'aune de la violence qui est faite à notre profession.
On est d'autant plus étonné, j'avoue, docteur, que on parle énormément des déserts médicaux. On a plus que jamais besoin de vous. Comment le gouvernement a-t-il pu vous mettre si en colère et tous?
Mais parce qu'il n'a qu'un raisonnement qui est basé sur une économie à court terme. Et donc, ils mettent en place des réformes qui vont cisailler complètement la médecine de France. Je vous donne quelques exemples.
Oui.
Des médecins qui sortiraient des algorithmes opaques de l'assurance maladie, qu'elle est incapable d'expliquer. Bien, cela, on va les obliger à faire, par exemple, 30% d'arrêt de travail en moins. Si c'est votre médecin, Apolline de Malherbe, vous allez le voir et vous êtes du mauvais côté des quotas. À ce moment-là, il va vous dire, je suis désolé, je peux pas vous faire votre arrêt de travail parce que j'ai dépassé mon quota. Mais qu'est-ce que je fais, docteur? Allez voir un autre médecin. Mais il y en a pas. Mais vous aurez pas votre arrêt de travail. Et donc, voilà comment le gouvernement décide de priver des millions de Français d'un traitement, parce que leur travail est un traitement, uniquement par raison économique. Autre exemple, on donne au directeur de l'assurance maladie le pouvoir discrétionnaire de moduler la valeur de nos actes et donc de fragiliser économiquement quantité de cabinets, possiblement d'en faire fermer, alors même que 8 millions de Français, 7 millions de Français n'ont pas de médecin traitant.
Il n'y avait pas d'économie possible, docteur?
Si, il y a des économies possibles, mais intelligentes. Le problème, c'est que celles-ci ne sont pas intelligentes. Celles-ci, elles sont sur le court terme. Si l'on prend les internes aussi, on prend les internes, vous savez qu'on a rajouté une année à la médecine générale, une quatrième année. Là, on nous dit, pendant les discussions, les jeunes vont aller irriguer les territoires où l'on manque de médecins. On les prend pour des sprinklers qui vont irriguer les territoires où les politiques, par leurs erreurs, ont créé des déserts. Et puis, surtout, on modifie complètement cette quatrième année, on la sabote, on les paie pas à l'acte, on leur donne pas la possibilité de découvrir ce qu'est la médecine libérale. Et donc, au final, ils ne s'installeront pas. C'est complètement fou. On prend tout à l'envers. On fragilise les spécialistes qui ont des honoraires complémentaires. Vous savez que pour la chirurgie, par exemple, les actes de base n'ont pas été réévalués depuis 30 ans, Apolline de Malherbe. 30 ans. Donc, s'ils n'avaient pas d'honoraires complémentaires, ils ne pourraient pas opérer. Or, la chirurgie privée, c'est 70% des actes en chirurgie ambulatoire, par exemple. Donc, on peut pas, comme ça, bousiller par profit immédiat, par recherche de profit immédiat, quantité de secteurs de la médecine.
Est-ce qu'il y a le début du commencement d'une issue?
Ben, malheureusement pas. On a une ministre qui nous a écrit. Elle a basé son raisonnement sur la stabilité ministérielle en disant, mais rassurez-vous, tant que je suis là, je n'appliquerai pas cela. Sauf que c'est la 10e ministre de la Santé en quelques mois. Et sauf que dans le même temps, elle nous dit, j'ai une élection partielle le 18 janvier. Si je la perds, je m'en vais.
Dixième ministre de la Santé en 9 ans. Effectivement, c'est assez saisissant. Merci docteur. La grippe, est-ce qu'il faut s'en inquiéter, docteur?
Ben la grippe, il faut s'en inquiéter. Il est encore temps de se vacciner. On le rappelle, les personnes fragiles, les femmes enceintes, les personnes âgées, les gens qui ont des pathologies chroniques, vaccinez-vous. C'est encore temps. Et puis surtout, respectez les gestes barrières. C'est les mêmes pour la Covid. Vous vous sentez pas bien, mettez un masque. Évitez de vous isoler dans des milieux où il y a beaucoup de personnes, des milieux confinés, pour vous protéger.
Ça vaut la peine de le rappeler. Merci en tout cas, docteur Jérôme Marty, en grève aujourd'hui, médecin et président donc de l'Union française pour une médecine libre. Il est 7h50. Dans un instant, c'est la voix de droite, Louis Sarkozy, que l'on retrouve. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Oh bah dis donc Louis, j'espère que vous avez entendu le docteur. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de petites pastilles pour la gorge. Prenez soin de vous. Mais cela dit, on va quand même écouter vos propos sur Donald Trump qui a surpris le monde entier en ordonnant la capture du président du Venezuela. C'est la fin du droit international.
Effectivement, on pensait que l'ONU allait régler tous les conflits de la Terre. C'est faux. C'est la force qui domine encore et toujours.
A tout de suite Louis Sarkozy sur RMC. Il est 7h51.
RMC. Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, et même après les fêtes, on continue de parler du loup d'Intermarché.
Vous l'aimez, ce loup, hein, ah. Un peu, je sais. La pub, le dessin animé des hypermarchés qui fait un carton mondial, vous le savez. Ce loup qui se met à cuisiner des légumes pour servir un repas de Noël à ses amis de la forêt sans leur faire peur. Une histoire qui rappelle une légende normande, Apolline, à Pavilly, en Seine-Maritime. On se souvient de l'histoire du loup vert. On est au 7e siècle. Un loup avait dévoré un âne et avait dû s'excuser et changer de comportement, même devenir végétarien après une rencontre avec Sainte Austroberte. C'est ce que dit la légende. Alors le maire de Pavilly est malin, il demande un coup de pouce à Intermarché pour restaurer la chapelle Sainte Austroberte, justement, classée monument historique, très dégradée. Il manque 2 400 000 euros pour sa réhabilitation, une somme que la commune n'a pas. Alors coup de pub et en même temps qui ne tente rien à rien, on verra si Intermarché est sensible à la cause du maire normand après que la vidéo du conte de Noël avec le loup gentil a dépassé le milliard de vues sur les plateformes.
RMC, Apolline Matin. Voix de gauche, voix de droite.
Il est 7h53 et comme tous les lundis, c'est le retour de la voix de droite. Louis Sarkozy, bonjour Louis. Le président américain Donald Trump a choqué le monde en faisant capturer le chef d'État vénézuélien Nicolas Maduro. Bonne ou mauvaise nouvelle pour vous, le libéral ?
Alors écoutez, soyons clairs, Maduro était un narco-dictateur parfaitement illégitime et insupportable en soi. Bon débarras, tant mieux pour le Venezuela, tant mieux pour l'Amérique latine et tant mieux pour le monde. Le problème, Apolline, n'est pas là. Le problème, c'est l'après. Hier, un régime est tombé de façon spectaculaire grâce à une brillante opération militaire américaine. Aujourd'hui, l'avenir politique est incertain. Ça vous rappelle quelque chose ? L'Afghanistan, l'Irak ?
Avec évidemment cette question, qu'est-ce qu'on fait du droit international ?
Alors il dit, et je le dis en le regrettant, enterré à jamais. Il n'y a plus que nous, Européens, à ne pas nous en rendre compte, à penser que nous vivons encore dans un monde régi par ces dictats. Le droit international fut une belle et brève parenthèse de l'histoire humaine dans un monde qui demeure encore et toujours dominé par la force.
Donc il ne faut plus être naïf, c'est ce que vous nous dites. Ça crée un précédent évidemment inédit. Qu'est-ce qu'on va dire demain à la Chine si elle veut faire la même chose avec Taïwan ou Poutine avec Volodymyr Zelensky ?
Enfin, Apolline, vous raisonnez comme une parfaite européenne à ce que je vois. Les Chinois ne se retiennent pas de capturer le chef d'État taïwanais par crainte du droit international. Ils se retiennent parce qu'ils ont peur de la force américaine. Et Poutine a déjà tenté d'éliminer Zelensky. Ce qui le freine, ce n'est pas les condamnations mielleuses de notre gauche. Ce qui le freine, c'est la résistance des Ukrainiens. Tant que nous, Européens, n'aurons pas compris cela, l'avenir restera dangereux. Parce que celui qui veut la paix, comme toujours, est celui qui prépare la guerre.
Alors, Emmanuel Macron, lui, prend acte de cette décision. Il dit même se réjouir de la fin de la dictature Maduro. Et cette déclaration, elle est jugée honteuse par la gauche. Vous parliez de la gauche à l'instant. L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, lui, juge la réaction d'Emmanuel Macron, je cite, « aveugle et irresponsable ».
Oui, alors moi je juge que la gauche, où j'inclus d'ailleurs Monsieur de Villepin, est piètre stratège. Notre problème en Europe, Apolline, c'est la Russie. Nous voulons à tout prix préserver l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine, faute de quoi notre crédibilité et nos intérêts seraient gravement menacés. Or, nous dépendons dans ce combat de notre allié le plus puissant et le plus imprévisible, Donald Trump. À quoi bon, Apolline, aller le froisser sur le Venezuela? Que veut la gauche? Une condamnation médiatique qui, certes, serait agréable à entendre, mais qui n'impliquerait rien, si ce n'est des représailles américaines. La bonne diplomatie, ma chère Apolline, c'est aussi savoir quand il faut se taire.
Merci Louis Sarkozy, voix de droite sur RMC. Et je crains qu'aujourd'hui il faille effectivement que vous vous taisiez un peu pour réparer votre voix. Bonne année tout de même. Et effectivement, prenez soin de vous aujourd'hui. Un bon thé, merci. Du miel et du thym dans le thé. Ça marche.
Vous me l'avez fait une fois, ça marche.
Exactement. J'avais fait une petite tisane, c'est vrai, pour notre Manu Le Chypre, qui, vous l'entendez, vient de rentrer dans ce studio et qui va nous parler d'économie dans un instant. Avant cela, il y aura le journal de 8h. Il neige sur l'ouest de la France. Les transports scolaires sont suspendus en Bretagne et en Normandie. On sera en direct sur place dès le début du journal. La météo, évidemment, avec un point sur ces 23 départements en vigilance. Et juste après le journal, vous l'avez entendu, Emmanuel Le Chypre va nous parler d'économie. Emmanuel, vous commencez l'année avec une bonne nouvelle. Nos tarifs d'électricité vont baisser.
Oui, mais alors paradoxalement, c'est que ça ne dépend pas de tous les changements fiscaux. Ça dépend de vous.
De nous ?
De vous.
Vous nous le dites dans un instant. 7h57 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonne année Thibaut.
Bonne année Apolline, bonjour à tous. La neige invitée de la rentrée, la vigilance est étendue à 23 départements. Galère ce matin sur les routes en Bretagne et en Normandie. Nous serons sur place dans ce journal. Retour à Crans-Montana, 4 jours après l'incendie d'un bar. Toutes les victimes ont été identifiées. Bilan 40 morts, 9 sont français. Donald Trump qui menace à tout va après le Venezuela. Le président américain menace Cuba, l'Iran et le Groenland.
Attention sur les routes ce matin dans l'Ouest.
Une route blanche en raison de la neige. Des premiers flocons tombés dans la nuit du côté de la Normandie et de la Bretagne. Tous les transports scolaires sont suspendus dans ces deux régions. C'est le cas du côté de Romagné en Ille-et-Vilaine. Martin Lange, vous êtes sur place en direct ce matin pour RMC.
Décision annoncée hier soir pour ce qui s'agit des transports scolaires, hein, d'abord pour les Vilaines, puis pour tous les départements bretons. Une mesure de précaution évidemment, mais qui oblige les parents à s'organiser au tout dernier moment. Grégory vient tout juste de déposer deux de ses enfants à l'école.
Je suis parti un peu plus vite, j'ai démarré le véhicule avant pour qu'il soit bien à température et faire attention aux conditions. C'est pas facile, j'ai mon grand qui est au collège, je sais que ce matin il va pas pouvoir y aller, donc il va falloir s'organiser autrement. D'accord. Donc ça change un peu les conditions pour lui. On s'adapte, on n'a pas le choix.
La neige n'a pas encore fait son apparition ici, mais le givre et le verglas sont bien présents. Ça glisse notamment sur le réseau secondaire. Les flocons, eux, sont un peu plus au nord sur la Manche. Ils sont annoncés en Bretagne en milieu de matinée, 3 à 7 cm, jusqu'à 10 sur les hauteurs. Une neige qui devrait tenir, la faute à ces températures négatives qui vont persister toute la journée. À noter aussi que la circulation des poids lourds est limitée. Ils sont notamment interdits sur toutes les routes nationales.
Martin Lange, en direct ce matin de l'Ille-et-Vilaine pour RMC, un épisode qui va se décaler dans la journée vers la région parisienne. Géraldine Demory, vous êtes restée avec nous. Géraldine, on sait que quand il neige sur l'Île-de-France, ça devient très vite compliqué. Et il se trouve que là, ça va tenir.
Et ça va tenir très rapidement puisque les sols sont très froids. Alors, on attend les premières chutes de neige vers 13-14 heures. Elles vont arriver par le nord-ouest de l'Île-de-France. Dans l'après-midi et jusqu'en début de soirée, ces chutes de neige vont se renforcer et traverser toute la région. Ça se calmera en première partie de nuit. Au total, on attend 1 à 3 cm de neige dans Paris et la proche banlieue. 2 à 4 cm sur les Yvelines, l'Essonne, la Seine-et-Marne. On pourrait aller jusqu'à 5 cm sur les plateaux, dans le Val d'Oise notamment. Et alors c'est vrai que même si après minuit il ne va plus neiger, on va rester quand même en vigilance orange parce que les températures vont rester négatives et donc on va avoir du regel sur cette fine couche de neige, ce qui va rendre les sols extrêmement glissants demain matin. Ensuite, demain, on aura une journée de répit. Ça va être plutôt pas mal puisque mercredi, on aura un nouvel épisode de neige. Et enfin, le redoux qui marquera la fin de cet épisode de 15 jours de froid.
Les précisions de Géraldine Demory. Une rentrée sous la neige donc dans l'ouest, dans le froid à l'est. Moins 6 degrés ce matin du côté de Dijon. C'est là que les élèves du collège Champollion vont retrouver leur salle de cours 3 semaines après l'incendie de leur établissement en lien avec le trafic de drogue. Sont concernés les élèves de la 6e à la 4e. Rentrée partielle sous haute sécurité, loin de rassurer parents et enseignants. Caroline Renaud.
C'est avec un cours de physique que Lucas fait son retour au collège. Cet élève de 5e redoutait de faire sa rentrée dans un autre établissement.
Je vais revoir mes copains. C'est mieux que d'être séparés dans des collèges différents ou qu'on connaît personne.
Son père, Mathieu, se montre moins enthousiaste car il n'a qu'une peur.
Que ça recommence, que ce qui s'est passé la nuit peut se passer le jour. Que voilà, que le feu soit propagé dans la journée. Et un jour, nos enfants ils seront dedans, quoi.
Une inquiétude qu'Isabelle Chevier, professeure d'espagnol, lit aussi dans les messages de ses collègues.
Des collègues qui ont des problèmes de sommeil, qui sentent vraiment très très mal, très fragilisés.
Elle est représentante du syndicat d'enseignants SNES-FSU.
Le fait de se retrouver devant l'immeuble qui a brûlé, ça va probablement réactiver des choses. J'ai peur qu'il y ait des collègues qui partent vraiment, vraiment en dépression. Des collègues m'ont déjà parlé d'arrêt de travail. Puisque l'année dernière, on a eu des tirs de mortier. Cette année, c'est l'incendie. Jusqu'où ça va aller, quoi?
L'enseignante alerte aussi sur l'avenir de l'établissement. On a de plus en plus d'élèves qui changent de collège, confie-t-elle.
Le narcotrafic et le crime organisé qui ont désormais un parquet dédié, le PNACO, il ouvre ses portes aujourd'hui à Paris en charge déjà de 170 dossiers. C'est dans ce contexte qu'on a appris la mort d'un homme par balle hier soir, quartier Belzunce à Marseille. Vous écoutez RMC, il est 8h05, l'identification des corps est terminée à Crans-Montana, annonce des autorités suisses. Le bilan est lourd, 40 morts tués dans l'incendie d'un bar de cette station de Suisse au soir du Nouvel An, la moitié... Son mineur, Amine Lafchin, vous êtes sur place ce matin pour RMC. Parmi ces victimes, Omeline, 9 Français.
Oui, et parmi ces Français, 3 sont mineurs. Le plus jeune n'a que 14 ans. Les deux autres sont âgés de 15 et 17 ans. Parmi les victimes qui ont péri dans l'incident, il y a aussi un jeune homme de 20 ans, une femme de 33 ans et une jeune Toulousaine de 26 ans, partie fêter la nouvelle année dans le bar Le Constellation le soir du drame. On sait aussi que 2 d'entre eux y travaillaient. Il y a d'abord une serveuse franco-suisse, elle s'appelle Sian, 24 ans. Elle est originaire de Sète dans l'Hérault. Et puis le DJ de la soirée, Matteo, 23 ans, originaire d'Angers. Enfin, le plus âgé est un Vosgien, Giovanni, 39 ans, père de 2 enfants de 3 et 5 ans. Il habitait en Suisse depuis 3 ans. Lors de cet incendie, le Quai d'Orsay précise que 23 Français ont été blessés et que 6 d'entre eux sont sortis de l'hôpital.
Amine Lafcha en direct de Crans-Montana ce matin pour RMC. Dans cette affaire, une enquête est en cours. Les 2 gérants français du bar sont visés par une instruction pénale pour homicide, lésion corporelle et incendie par négligence. Nicolas Maduro face à la justice américaine. 2 jours après son enlèvement spectaculaire par les forces spéciales américaines, le président vénézuélien déchu doit comparaître à la mi-journée face au juge de New York pour narcoterrorisme. Les États-Unis qui sont ce matin aux commandes du Venezuela, dit Donald Trump dans une prise de parole. Antoine Hollard, vous êtes le correspondant RMC aux États-Unis. Après le Venezuela, le président américain semble donc avoir d'autres ambitions. Il multiplie les menaces.
Oui, dans son avion, alors qu'il rentrait à Washington, Donald Trump s'est montré très offensif contre l'Iran. D'abord qu'il menace de bombarder si la répression se poursuit contre les manifestants. L'Iran qui, comme le Venezuela, est aussi une grande puissance pétrolière. Il menace Cuba qui pourrait s'effondrer, dit Trump. Et puis surtout, il parle à nouveau du Groenland. Les États-Unis en ont besoin, voilà ce que dit Donald Trump, besoin pour leur sécurité. Ça fait plusieurs jours que Donald Trump revient à la charge et menace d'annexer le Groenland. Alors on verra jusqu'où il est prêt à aller, mais l'attaque contre le Venezuela a clairement marqué un tournant. Au-delà de la capture de Maduro, cette opération spectaculaire, c'est aussi une démonstration de force, un message envoyé par Donald Trump, une façon de montrer qu'il est inarrêtable et qu'il ne laissera personne se mettre en travers de son chemin.
On apprend ce matin la mort d'un septuagénaire dans l'incendie de son box hospitalier aux urgences d'hier dans le Var près de Toulon. 32 personnes ont été évacuées, 10 personnes ont été légèrement blessées. Une fuite d'oxygène serait à l'origine de l'incendie selon les premiers éléments de l'enquête.
Et puis grève chez les médecins libéraux à partir d'aujourd'hui.
Mouvement inédit de la profession pour 10 jours afin de dénoncer plusieurs mesures du budget de la sécurité sociale. Autre colère, celle des agriculteurs. Ils menacent de reprendre la mobilisation après une trêve relative, le temps des fêtes. La coordination rurale appelle à manifester jeudi à Paris. C'est ce que souhaite empêcher le gouvernement. Il reçoit les syndicats du secteur aujourd'hui et demain. Occasion pour le Premier ministre de préciser ses intentions après une lettre qui leur était adressée hier dans la presse, Romain Cluzel.
Et Sébastien Lecornu multiplie les promesses dans ce courrier aux agriculteurs. D'abord sur la politique agricole commune. En pleine négociation en ce moment à Bruxelles, le Premier ministre assure que le montant pour la France ne baissera pas. L'exécutif souhaite aussi lutter contre la concurrence déloyale avec un décret qui doit être publié demain pour suspendre l'importation de produits contenant des substances interdites en Europe. Cela concerne entre autres des avocats, pommes de terre, melons ou agrumes venus par exemple d'Amérique du Sud. Mais cette interdiction, elle doit obtenir un feu vert de la Commission européenne dans les prochains jours. Avec cette lettre et les rendez-vous avec des syndicats cet après-midi, Sébastien Lecornu tente à nouveau de rassurer les agriculteurs toujours mobilisés, alors que l'accord avec le Mercosur pourrait être signé par l'UE dans une semaine.
Et puis le PSG qui tient la cadence, vainqueur du derby parisien 2-1 hier soir en clôture de la 17e journée de Ligue 1 face au PFC. Le PSG est à un point du leader Lens, sacré champion d'automne.
C'était le journal de Thibaut Texer, 8h09, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Il y a des changements sur nos factures d'électricité.
Oui, effectivement, et c'est difficile de s'y retrouver. Alors, le dernier changement en date, c'est celui qui a été annoncé ce week-end, par le gouvernement, la diminution d'une des nombreuses taxes qui constituent, quand même, rappelons-le, 30% de notre facture, hein. C'est les taxes. Là, c'est la contribution tarifaire d'approvisionnement, la CTA, 540 millions d'euros rendus aux Français. L'avantage, c'est que ça ne plombe pas les finances publiques, puisque c'est de l'argent qui était destiné à la caisse des retraités du gaz et de l'électricité. Qu'est-ce qui est excédentaire ? Donc finalement, c'est une façon de transférer de l'argent des retraités vers les clients des...
Pour une fois.
Oui, effectivement, voilà. Et donc, attendez, vous emballez pas, parce que ça correspond quand même à 10 à 12 euros sur la facture annuelle.
Ah oui,
pour les ménages.
10 euros par an,
ouais,
pour
ça
un
fait
ménage.
1 euro
oui.
par mois à peu près. Alors on dit que c'est 200 euros pour certaines PME, mais quand vous êtes un boulanger qui a 20 à 30 000 euros de facture d'électricité par an, c'est pareil, ça vous change pas la vie.
Le deuxième changement va provoquer une augmentation à l'inverse de notre facture. Alors là, c'est là qu'on a du mal à suivre.
Bah, en fait, la réalité, c'est même que le premier changement qui a été annoncé, la petite baisse, est sans doute destiné à faire avaler la pilule de ce deuxième changement qui, lui, correspond au fait que les entreprises de l'énergie doivent, depuis le 1er janvier, aider à financer 27% d'économies d'énergie en plus par rapport à ce qu'elles finançaient l'année dernière. Alors c'est par l'intermédiaire d'un mécanisme un peu compliqué qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Bref, financer les économies d'énergie, ça va coûter plus cher à nos fournisseurs qui vont donc répercuter ça sur notre facture. Et là, UFC Que Choisir nous dit que ça fera à peu près 50 euros de plus sur la facture annuelle.
Okay.
Donc si vous faites le bilan, pour le moment, on est à moins 40.
Exactement. Voilà. Alors, il y a un troisième changement aussi pour les tarifs d'électricité. C'est la fin de l'obligation pour EDF de vendre du nucléaire pas cher à ses clients. Et ça crée plus d'incertitudes.
Oui, parce que, alors, jusqu'au 31 décembre, il y avait un mécanisme, désolé pour tous ces mécanismes compliqués, qui s'appelait l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. En gros, ça permettait aux concurrents d'EDF d'acheter une partie de l'électricité nucléaire d'EDF pas cher. Pourquoi ça avait été fait? Parce que quand on avait voulu ouvrir le marché à la concurrence, on s'était dit, bah oui, mais il y a plein de fournisseurs qui produisent pas d'électricité. Donc pour que les vendeurs, les fournisseurs soient dans des conditions identiques, on va leur permettre d'acheter pas cher l'électricité nucléaire à EDF. Et ça, c'est terminé. Ils doivent acheter leur électricité sur le marché.
Toute au prix du marché, donc.
Sur le marché, au prix du marché. Oui, mais la bonne nouvelle, Apolline, c'est que le prix de marché, aujourd'hui, il est bas. L'électricité, elle est pas chère sur les marchés, et ça devrait rester pas cher au cours des prochains mois, et c'est même avantageux par rapport aux tarifs réglementés. Si vous avez des prix qui dépendent du marché, vous êtes à 8 à 10% moins cher aujourd'hui que le tarif réglementé. Et ça fait facilement...
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ça fait facilement plus d'une centaine d'euros sur l'année.
Allez, on redevient
comme économie.
Positif.
Et donc, je vous livre ce qui va être... une des grandes règles philosophiques dès le 5 janvier pour l'année. Rappelez-vous toujours que pour faire des économies, il faut plus miser sur la concurrence que sur la fiscalité. La concurrence est votre amie, la fiscalité n'est pas votre amie.
Merci Emmanuel Lechypre. À 8h12, on se retrouve dans un instant avec Arnaud Demange qui nous rejoint. À 8h30, l'invité du face-à-face, ça sera la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. J'ose pas lui demander ce que vous venez de dire. La fiscalité n'est pas votre ami, la concurrence est votre ami. J'ai retenu Manu. Et puis juste après, il y aura aussi Nicolas Canteloup de retour avec ses imitations. Ce sera à 7h, à 8h50 bien sûr, sur RMC. On se retrouve tout de suite, 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 et c'est l'heure de retrouver Arnaud Demange. Bonjour Arnaud.
Bonjour Apolline et bonne année Apolline.
Bonne année. On peut se dire pendant un
Oui, mais là c'est aussi pour les auditeurs de 8h20. Gros bisous, bonne année. Très bonne année 1939.
Ouais.
C'est la guerre mondiale qui commence. Alors ça pète de partout là. Ukraine, Venezuela, Iran, Groenland, bref. Je vous souhaite plein de belles choses pour 2026. La santé, la joie, la prospérité, un bunker, des nouilles, du PQ, du sucre. C'est mes bons vœux. C'est les vœux, voilà. Alors moi, j'ai reçu plein de bons vœux. J'ai reçu les vœux de Darty, comme chaque année. Alors d'habitude, ils m'écrivent, cher client, Darty vous souhaite une bonne année. Là, ils ont mis, Darty vous souhaite bon courage et vous annonce moins 30% sur les systèmes d'alerte anti-aérien. Bref, c'est... vous avez fait vos vœux. Alors, on connaît la technique hein, pour les vœux. On commence le soir du réveillon avec les gens très importants. C'est-à-dire à minuit, la personne qu'on essaye de pécho. À minuit 10, la famille et les amis. Et à 3h du matin, les ex. On est là, bonne année. Je t'aime encore. On a tellement de belles choses à dire. Et puis le reste de la semaine, ben, c'est les collègues, les gens qu'on aime bien. Et le reste du mois, c'est les gens qu'on croise. Voilà. Si vous recevez des vœux le 19 janvier, c'est que vous ne comptez pas vraiment dans la vie de cette personne. Est-ce que vous aussi, ça vous l'a fait, vous avez reçu les vœux SMS de quelqu'un qui vous appelle par votre prénom et vous savez pas qui c'est?
Oui.
Moi j'ai eu 06 41 22 35
qui m'a écrit.
Il faut me dire qui tu es. Il m'a mis bonne année Arnaud. Merci pour tous ces bons moments. J'ai hâte qu'on en passe de nouveau. Je ne sais pas qui tu es. Signe tes SMS. En plus, le dernier SMS que j'ai reçu de ce numéro, c'était les vœux en 2024. Je ne comprends pas quoi. Allez, l'actu.
2025,
il m'a rien dit. Il y a un problème avec ce numéro. L'actu, c'est le Venezuela, évidemment. Alors là, quand il déclenche les feux d'artifice au Nouvel An au Venezuela, Donald Trump, il rigole pas. Il passe la seconde couche. Donc il a capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro et sa femme, apportant ainsi la liberté, la paix et la joie à des millions de barils de pétrole. Et c'est beau, j'ai envie de dire, Apolline.
Donald Trump qui a justifié cette attaque par la lutte contre le trafic de drogue.
Voilà, les Américains, quand ils lancent une opération anti-drogue, c'est pas comme chez nous. Ils rigolent pas, parce que nous, on galère à priver un petit chauffeur de la DZ Mafia de son portable en prison. Les Américains, ils enlèvent un président. Voilà. Ouais. En 14 minutes d'opération, c'est réglé. À minuit, Nicolas Maduro va se coucher en pyjama de Che Guevara. Il est là. Pam, 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 pam. Et à minuit et demi, il a 30 soldats d'élite qu'il réveille en déboulant dans sa chambre. Freeze, motherfucker! Go, go, go! Moi, mon réveil, c'est des oiseaux dans une forêt.
Ah oui.
Je vis déjà pas bien. Un régiment de Navy Seals qui te met un gun dans la narine en hurlant. Tu te dis pas, encore 5 minutes et je vais... Maduro, ça lui a fait le même effet qu'Apolline quand ses 4 gosses débarquent dans la chambre le samedi matin en faisant « Maman, mon pique-nique, c'est le foot, c'est mon galette flûte !» 7h du matin, c'est Donald Trump qui vous envoie ou quoi? Et alors les États-Unis ont expliqué que désormais ils géreraient le pays et ses réserves de pétrole. Là, le braquage est total. C'est la patronne du Louvre, je pense, qui est en charge de la sécurité au Venezuela. Alors de nombreux chefs d'État ont réagi à ce coup de force américain au Venezuela. Emmanuel Macron n'a pas eu peur de se révolter contre ce non-respect des conventions internationales. Il a dit...
Bravo Donald, bien joué, ne me tape pas.
Et côté opposition, Jordan Bardella aussi a sèchement recadré Donald Trump.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Alors je regarde. J'ai regardé les chaînes info tout le week-end pour suivre cette actualité internationale. J'ai regardé LCI, ils étaient un peu largués, hein. Merci de nous rejoindre sur LCI après ce reportage passionnant sur la guerre en Ukraine. Le général Trinquant est avec nous, avec le colonel Reyel, le capitaine Igloo, le général Doplic, le capitaine abandonné, pour parler de la situation en Ukraine. Et excusez-moi, une alerte info. Donald Trump aurait effectué un bombardement sans doute en Ukraine. Hein? Ah non. C'est au Vuvuzela, me dit-on. Donald Trump a bombardé la capitale, Maracas. Je ne connais pas ce pays. Général Trinquant, c'est loin par rapport à l'Ukraine?
Oh oui, je crois. Je suis allé une fois au club Lukea à Cancun, dans le secteur, je pense. Mais alors, la bouffe était dégueulasse. J'ai chopé la tourista, les toilettes du bungalow, c'était Mariupol.
Merci, général. On comprend mieux avec cette référence à l'Ukraine. Notre envoyé spécial est à moins de 10 000 kilomètres de cette capitale, hein, Ravanas, je crois, qui est... Donc elle est à Kiev, en Ukraine. Pauline, que pense-t-on de la situation là-bas au Gorgonzola?
Eh bien, écoutez, Darius, rien.
Oh, c'est la galère, là. On va devoir aller chercher un spécialiste sud-américain, Florent Pagny, je ne sais pas, ou le mec de la pub d'El Paso, un Brésilien du bois de Boulogne. Courage, les gars. En tout cas, ça a été... T'as vu le gros qui a des machettes là. En tout cas, ça a été vite vu cette opération. En 10 minutes, Caracas était démolie, puis Caracas avait un remplaçant pour la diriger. Donald Trump, c'était Caracas répare, Caracas remplace.
Mon client,
il a reçu un impact de la taille de 32 missiles solaires dans son pare-brise. On lui a injecté de la résine spéciale dans sa grosse moustache de dictateur. Et maintenant, on va exploiter son pétrole pour une somme inférieure à une pièce de 2 euros.
Caracas répare, Caracas remplace, c'est bon, ça promet. Allez, à demain.
Quelle rentrée 2026
avec Arnaud Demange dans un instant, la porte-parole du gouvernement. Mais d'abord, Florian qui est avec nous et qui nous appelle de Pau. Bonjour Florian.
Bonjour.
Comment ça va Florian?
Bonjour,
vous êtes infirmier à domicile. Bonne année. Vous êtes sur la route là, attention, non?
Bonne année. Ouais, non, je me suis garé juste pour en attendant d'aller chez un autre patient pour être au calme quand même.
Oui, pour être au calme. Et il fait froid, non?
Et moins 7 ce matin.
Moins 7 à Pau. Vous avez entendu le docteur Marty sur les médecins qui font grève. Vous assurez aujourd'hui les autres soignants, je dirais?
Eh oui, on assure comme tout le temps, on va dire, que ce soit... nous, c'est 365 jours par an. Et donc, moi, je peux comprendre et je comprends le mécontentement des médecins par rapport à leur situation et tout ce qui leur est demandé par la sécurité sociale. Mais c'est un peu toujours la même histoire, en fait. Hein. Donc, eux, ils ferment les cabinets, ils disent aux patients que s'ils ont des soucis, ils appellent le 15. Et puis, nous, on se retrouve quand même dans des situations un petit peu délicates.
Vous redoutez la journée, là?
La journée, là, aujourd'hui, je pense pas. Enfin, sauf si un patient à moi a un souci. Hein. Il m'est arrivé... des petits problèmes, admettons, mais le jour de Noël et le lendemain de Noël, où ça a été compliqué. Et voilà, et puis nous, au final, on parle rarement de nous, on a des syndicats qui ne nous proposent jamais à proprement parler.
Vous l'auriez fait la grève sinon, là?
Ben, alors moi, une grève que j'aimerais bien faire, moi je veux pas abandonner nos patients qu'on a au quotidien, puisque de toute façon on est obligé d'assurer les soins chez eux, mais au niveau national, les infirmiers, ouais, ça serait bien qu'on arrive à se mettre d'accord et par exemple à refuser tous les nouveaux soins aussi pour mettre un peu le système de santé.
Pour mettre la pression aussi sur le gouvernement. Merci Florian d'avoir appelé le 32-16 pour témoigner. Florian qui était en plein dans sa tournée infirmier libéral à Pau. Il est 8h24. À tout de suite pour le face-à-face. Mon invité, c'est la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonne année à tous et bonne année Maud Bréjon.
Bonne année.
Bonjour à vous, vous êtes porte-parole du gouvernement. Toujours pas de budget, une crise agricole qui n'est pas apaisée, des médecins en grève et des Français qui pensent que 2026 ne sera sans doute pas meilleur que 2025. Bonne année quand même.
Bonne année à vous, Apolline.
On va évidemment analyser tous ces points, mais je voudrais commencer par évoquer la mémoire des victimes françaises de Crans-Montana, ce drame. 9 victimes françaises donc confirmées ce matin. Quelles sont les informations dont vous disposez à la fois sur ces victimes qui ont donc désormais toutes été identifiées, mais aussi sur les blessés?
D'abord, je voudrais évidemment commencer à m'associer à la tristesse et l'émotion des proches, de leurs familles, de leurs amis. Ça nous a tous saisis. Je pense que c'est le cas de l'ensemble des Français qui nous écoutent ce matin. Ça a été évidemment le cas de l'ensemble du gouvernement. Et la France s'est immédiatement mobilisée. Vous savez que 18 victimes ont été prises en charge sur le sol français, dans les hôpitaux français. Et donc, nous sommes à leur côté, nous resterons à leur côté. Vous savez aussi qu'il y a un hommage qui sera rendu en Suisse le 9 janvier, vendredi prochain, jour de deuil national en Suisse. Et donc, bien sûr, le gouvernement sera présent et sera représenté.
Sera représenté,
bien sûr.
Vous savez qui ira?
Non, nous aurons l'occasion de le dire dans les heures ou dans les jours à venir. Mais
le gouvernement français
bien normal.
S'associera.
Le gouvernement français s'associera. Le gouvernement français sera représenté au bon niveau parce que encore une fois, c'est un drame abominable, voilà, qui a coûté la vie à 9 de nos compatriotes et qui a fait de nombreux blessés.
Les blessés, il y en a un certain nombre qui sont pris en charge dans les hôpitaux
18.
Français.
Oui.
On en est où?
Écoutez, leur état est évidemment suivi de près. Je suis pas en mesure de vous donner le détail pour chacun d'eux. Ce que je peux vous dire, c'est que les équipes soignantes sont pleinement mobilisées et j'en profite d'ailleurs pour les remercier ce matin.
Alors, il y a eu évidemment le drame, il y a eu l'attente, il y a eu l'angoisse des familles. Mmh. Je voudrais que vous écoutiez les mots de ce père, le père de Gaëtan. Gaëtan a été terriblement blessé. Il s'appelle Jean-Michel Gilbert. Il a témoigné ce matin sur BFM TV. Et voilà ce qu'il dit de ce moment d'attente et aussi du sentiment d'avoir été très, très seul.
Personne. On a fait tous les hôpitaux un par un au téléphone jusqu'à ce que par chance on tombe sur lui. Le CHU de Lausanne nous a dit votre fils va être transféré sur Paris de la nuit du vendredi au samedi. Vous inquiétez pas, on peut pas vous dire quel hôpital parce que c'est les autorités françaises qui vont décider où on va dispatcher ce transfert. On a quelqu'un sur Paris qui a fait le tour des hôpitaux et qui a retrouvé notre enfant à 10h du matin dans quel hôpital il était.
Ils ont cherché eux-mêmes, et d'ailleurs pendant les premiers jours, le gouvernement français a même évoqué l'idée que peut-être leur fils était décédé parce qu'ils ne le trouvaient pas. Ils ont vraiment le sentiment, à ce moment-là, d'avoir dû faire le boulot tout seul. Est-ce que vous entendez ça ?
Oui, je l'entends. Alors, je connais pas les détails de cette situation, mais ce qui s'est passé tel qu'ils le décrivent et tel que je le découvre ce matin est évidemment anormal. Évidemment anormal. Je me mets à la place de ce papa qui a cherché son fils, qu'il a peut-être cru décédé pendant un instant. On imagine tous quand on est parent ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là. Voilà. Et donc, ça a été le cas. Je ne remets aucunement en doute sa parole et je le dis comme je le pense. C'est pas normal.
Son fils Gaëtan est hospitalisé à Paris et il est dans le coma. Il y a aussi la question de la sécurité. Le personnel des bars, des boîtes de nuit se pose la question aujourd'hui en France des normes de sécurité qui sont infiniment plus strictes et en réalité, disent-ils, tout à fait respectées. Mais est-ce qu'il faut davantage de contrôle ? Est-ce qu'il faut officiellement interdire les bougies incandescentes ? Certains disent on ne les utilise plus depuis cette nuit-là.
La sécurité incendie en France est extrêmement encadré et extrêmement contrôlé. Ce que je peux vous dire ce matin, c'est que Laurent Nunez a demandé à l'ensemble des préfets vendredi dernier, via un télégramme, de s'assurer que ces exigences et que l'effectivité de ces contrôles, que la périodicité de ces contrôles qui doivent être faits régulièrement par les mairies et par l'État sont bien réalisés. Donc il y a une vigilance particulière qui est celle de chaque instant et ce depuis des années parce qu'encore une fois on a une réglementation, on a une législation qui est de très haut niveau mais qui a été rappelée eu égard au drame qui s'est produit. Donc l'État est pleinement mobilisé, les collectivités territoriales, les mairies le sont également.
Maud Bréjon, vous le dites donc... Vendredi, le gouvernement sera présent à cet hommage.
Oui, le gouvernement sera présent. Je crois que c'est en fait attendu, c'est normal. Encore une fois, il y a des victimes, il y a des blessés. Et donc, voilà, c'est normal que le gouvernement soit présent, soit représenté en Suisse pour ce qui est, je le rappelle, un jour pour eux de deuil national.
On va revenir dans un instant sur le budget, toujours pas de budget, et on se demande d'ailleurs pourquoi ça passerait cette fois-ci alors que ça passait pas en décembre, mais un mot aussi sur le Venezuela, et notamment sur les réactions en France, les réactions politiques. Emmanuel Macron est visé par Jean-Luc Mélenchon, qui dit que la prise de position d'Emmanuel Macron, je cite officiellement, n'est pas la voix de la France, il nous fait honte, il abandonne le droit international, jour sombre pour notre pays. Dit Jean-Luc Mélenchon. Dominique de Villepin qui parle à propos d'Emmanuel Macron d'une réaction aveugle. Olivier Faure lui-même qui dit la déclaration du président de la République n'est pas à la hauteur de la voix de la France, la voix que la France porte dans le monde et des valeurs qu'elle doit continuer à défendre.
Alors d'abord, je voudrais rappeler ce qui a été dit par le président de la République et par le Quai d'Orsay, par la voix de Jean-Noël Barrot. Nous avons dit trois choses. Premièrement, il y a une responsabilité implacable de Monsieur Maduro dans ce qui s'est passé. Et non, nous n'allons pas pleurer le départ d'un dictateur qui a confisqué la liberté à son peuple et qui a volé les élections. Deuxièmement, bien sûr que ça contrevient au droit international. Nous n'avons jamais dit le contraire. Et troisièmement, il faut maintenant permettre au Venezuela de se projeter dans l'après-Maduro avec une transition qui doit être pacifique et qui doit être démocratique. Ça commence par la libération des prisonniers politiques et ça doit ensuite se traduire par une prise en compte réelle des élections de 2024. J'en viens ensuite aux réactions politiques.
Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon, à Dominique
Villepin? Et notamment à monsieur Mélenchon. Je vais vous dire, J'aurais aimé que Monsieur Mélenchon organise la même manifestation de soutien au peuple ukrainien lorsque l'Ukraine a été envahie par Poutine. Et j'aurais aimé que Madame Le Pen rappelle avec la même vigueur l'importance du droit international lorsque ce même Vladimir Poutine a envahi la Crimée en 2014. Il y a de toute évidence de leur part un deux poids deux mesures. Et pour revenir sur Monsieur Mélenchon, quand on organise une manifestation, comme ça a été le cas,
à place de la
pour demander le retour dans son pays d'un dictateur,
il a demandé la libération et le retour dans immédiat son pays, de Nicolas Maduro.
Quand on sait ce qu'a fait subir Nicolas Maduro au Venezuela, ça interroge quant à son propre rapport à la démocratie.
Vous vous interrogez sur le rapport à la démocratie
quand on demande la libération immédiate et le retour dans son pays d'un dictateur qui, encore une fois, a confisqué la liberté de son peuple et lui a volé les élections, oui, ça interroge dans un rapport au moins trouble à la démocratie de sa part.
Est-ce que vous estimez, est-ce que vous allez jusqu'à dire que Jean-Luc Mélenchon...
Je rappelle par ailleurs que Jean-Luc Mélenchon avait lui-même dit que le régime de M. Maduro était pour lui, je cite, « une inspiration ».
Je vous sens...
Une inspiration, oui, ça me met en colère. Bien sûr que ça me met en colère. Ça me met en colère parce qu'on parle là d'un dictateur qui a fait subir des choses absolument terribles à son peuple. Et donc, se porter comme grand défenseur de Nicolas Maduro, organisé sur la place de la République, quand on sait la symbolique de cette place de la République, un rassemblement pour demander son soutien immédiat et son retour dans son pays, quand on voit ce qu'est devenu le Venezuela depuis plusieurs années, et après que M. Mélenchon ait lui-même dit que Nicolas Maduro était une source d'inspiration, ça a de quoi nous mettre en colère, Apolline de Malherbe.
Maud Bréjon, vous irez juste après cette interview à Beauvau pour le traditionnel, chaque année ça commence pareil, traditionnel petit déjeuner au ministère de l'Intérieur, avant de vous rendre tous ensemble, à pied, de l'autre côté de la rue,
pour le conseil
du côté de l'Élysée, pour le premier conseil des ministres. Mais avec quel projet? C'est-à-dire qu'on se dit, vous avez quitté décembre sans budget, vous commencez l'année sans budget et sans réelle perspective. Quand on demande aux Français, et c'est ce que nos partenaires des Labs ont fait, s'ils estiment que 2026 sera meilleur que 2025, ils répondent non.
D'abord, moi, je comprends les Français parce qu'on passe, on a passé 18 mois de politique nationale extrêmement difficile. Ma conviction, c'est que à l'heure où le monde avance à 1000 à l'heure, on le voit encore avec ce qui se passe en Amérique latine, nous ne pouvons pas nous permettre d'être bloqués. Et donc nous avons, je dirais à minima, trois responsabilités. La première, c'est de faire atterrir le budget. Il est temps de passer à autre chose. Et donc c'est ce à quoi on s'attellera dans les prochaines semaines. Il faut un budget en janvier. Il y aura un budget en janvier. La deuxième urgence, vous savez, c'est celle des agriculteurs qui attendent beaucoup de nous, qui souffrent, qui sont face à des difficultés extrêmement importantes. Et le Premier ministre recevra les organisations agricoles cet après-midi. Et la troisième, c'est les priorités du quotidien des Français. Le gouvernement n'est pas cantonné au budget. Et j'ai eu l'occasion de le dire chez certains de vos confrères. Le premier trimestre sera porté sur le régalien. Le régalien sera la priorité des premiers mois de l'année, une fois passé le budget.
Quand vous dites le régalien, c'est quoi?
Je pense...
C'est l'armée,
projet.
C'est la sécurité,
c'est l'ensemble.
La justice,
c'est l'augmentation du budget de l'armée avec l'actualisation de la loi de programmation militaire. C'est le renforcement des moyens de la police municipale. Vous savez qu'un projet de loi va être examiné rapidement au Parlement. C'est le projet de loi de justice sur lequel travaille Gérald Darmanin, de réforme de la justice pénale pour avoir davantage de simplicité et davantage de fermeté dans l'organisation de la justice pénale. Ça, c'est des éléments extrêmement concrets
sur lesquels
les Français nous attendent.
Les questions d'insécurité en ce début d'année sont, aux yeux des Français, à nouveau la première priorité avant le pouvoir d'achat.
Et c'est pour ça qu'on s'y attelle. C'est pour ça qu'on s'y attelle, encore une fois, avec ce paquet régalien qui comprend à la fois l'armée, qui comprend à la fois l'intérieur, qui comprend à la fois la justice, avec un certain nombre de projets de loi, avec le déploiement de lois qui ont déjà été votées. Je pense à la loi narcotrafic, c'est un sujet dont on parle beaucoup sur vos antennes, et à juste titre. Elle a été votée il y a un an, il faut maintenant continuer à la déployer. Et puis il y a les moyens qui sont prévus dans le budget. 1600 postes supplémentaires pour la justice.
Raison de plus à vos yeux.
1400 pour l'intérieur, raison de plus pour le voter.
Sur cette question de l'insécurité, ce matin sur RMC, on a consacré de nombreux reportages à ces lieux désormais pour femmes, parce que les femmes disent avoir peur dans les transports. Il y a désormais des applications pour pouvoir prendre un taxi ou un Uber uniquement femmes, être sûr d'être conduit par une femme. Il y a désormais des vacances pour femmes, il y a désormais même des clubs de sport pour femmes. c'est bien ou c'est inquiétant?
C'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que ça revient à dire qu'au fond, la seule façon qu'il y aurait de protéger les femmes, c'est de les faire vivre en parallèle des hommes. Ça ne peut pas être la solution. Ça, c'est une résignation. C'est une résignation, c'est une capitulation face aux agressions sexistes et sexuelles que de nombreuses femmes ont vécues et que de nombreuses femmes vivent encore. Donc, ce n'est aucunement la solution.
Donc, la solution, c'est quoi?
La solution,
qu'est-ce
c'est
que
de
vous
continuer.
Dites à ces femmes solution, qui sont tentées de prendre ces applis ou de se retrouver dans des salles de sport séparées.
Non, je leur dis à elles que je les comprends. Je ne blâme aucunement les femmes qui ressentent ce besoin-là, qu'on soit extrêmement clair.
Mais
ça nous est arrivé à toutes d'avoir peur à certains moments dans les transports, dans
la
rue. Ça m'est arrivé à moi, ça vous est probablement arrivé à vous, c'est arrivé à beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Pour autant, en tant que responsable politique, cette solution-là ne peut pas en être une. Notre responsabilité, c'est de continuer à déployer des moyens de sécurisation nécessaires dans les transports, des caméras de vidéoprotection, des moyens pour mieux les accompagner, mieux former les policiers quand elles vont porter plainte, c'est ce qu'a fait Gérald Darmanin, mieux permettre à la justice de répondre plus rapidement. Voilà, c'est sur ça qu'on doit agir.
L'insécurité, le régalien, dites-vous, et puis la question du budget. Quel deadline vous dites? Il y aura
un budget en janvier.
Comment vous faites?
Il y aura un budget en janvier.
Pourquoi ça passe là alors que ça passait pas en décembre?
Parce que la France a besoin d'un budget. Parce qu'on ne peut pas se permettre de tenir avec une loi spéciale. On a parlé déjà en décembre dernier. Une loi spéciale, c'est une rustine. C'est ce qui vous permet de continuer quelques mètres supplémentaires.
Mais ça veut dire
quelques
quand vous
dizaines
dites,
de
quand
mètres
vous dites,
supplémentaires.
Y aura un budget, ça veut dire aussi que si ça passe pas par le vote, ben vous ferez en sorte
la
que ça passe
étape,
tout de même.
La première étape, c'est de s'accorder sur la question de fond. Avant de parler des outils de procédure qui permettent de faire passer ce budget, il y en a. Et il y en a dans la Constitution.
Et vous ferez usage de tout ce que la Constitution
propose. Il y en a dans
propose.
La Constitution, mais aujourd'hui.
Vous ne vous interdirez rien,
la seule,
y compris le 49-3.
Aujourd'hui, la seule question à laquelle nous demandons aux forces politiques de répondre, c'est ce qu'on met dans le budget de l'État.
Qu'est-ce qui bloque?
Et des collectivités territoriales.
Qu'est-ce qui bloque?
Notamment l'effort que demandait aux collectivités territoriales, entre ce qu'on avait proposé initialement, ce qu'a proposé le Sénat, et aujourd'hui un écart important, donc il faut qu'on arrive à faire converger les uns et les autres. Il y a la question de l'effort qu'on demande aux grandes entreprises, aux 300 grandes entreprises qui paieraient la surtaxe d'impôt sur les sociétés. Vous savez qu'elle était de 8 milliards l'année dernière. On a proposé 4 milliards, l'Assemblée l'a porté à 6, le Sénat à 0. Bon, entre le tout ou rien, on doit probablement pouvoir trouver...
Le problème, c'est la droite ?
On doit probablement pouvoir trouver... Bah,
Le
Sénat a demandé à revenir à supprimer cet effort exceptionnel. Nous, on pense qu'un effort exceptionnel demandé, encore une fois, à 300 grandes entreprises, eu égard au contexte qu'on traverse, c'est légitime.
Donc là, vous vous adressez aux députés de droite,
mais
vous leur dites...
Vous savez, les députés de droite, ils ont largement contribué à faire aboutir et voter le projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Je sais qu'on peut compter sur eux. Par ailleurs, cette surtaxe sur d'impôt sur les sociétés, elle était portée par Michel Barnier. J'étais dans son gouvernement à hauteur de 8 milliards d'euros l'année
dernière.
Donc
ça devrait passer.
Donc on doit pouvoir.
Qu'est-ce qui bloque encore?
On doit pouvoir. Aujourd'hui, on n'a pas convergé dessus, mais on doit pouvoir trouver un chemin de convergence. Et puis il y a une question centrale, qui est celle du déficit. Nous disons une chose simple, nous tiendrons et nous devons tenir le cap d'un déficit inférieur à 5%.
C'est donc vous dites d'un côté,
majeur.
Il y aura un déficit,
le budget, quand
un
il
déficit
est sorti,
inférieur
le
à 5%.
Le budget, quand il est sorti du Sénat, était à 5,3%. C'est pas acceptable. En parallèle, les socialistes demandent 10 milliards d'euros de fiscalité supplémentaire. C'est trop important. Et donc les uns et les autres doivent continuer à se parler. Amélie de Montchalin et Roland Lescure recevront d'ailleurs les chefs de file de l'ensemble des groupes hors LFI et RN cette semaine pour faire aboutir, encore une fois, ces discussions le plus rapidement possible.
Vous dites avoir confiance dans le fait qu'on trouve un moyen. Si ça n'est pas le cas, vous dites aussi il faut quoi qu'il arrive un budget avant la fin janvier. Donc si fin janvier, il n'y a pas d'issue favorable à un vote, vous passerez par le 49-3.
Je dis qu'il y a des outils dans la Constitution qui permettent de passer un budget, qu'il faudra en tout état de cause un budget pour le pays, mais qu'à l'heure où on se parle, il est... secondaire de parler des questions de procédure, parce que ça revient à contourner le problème de fond. Prenez l'exemple de Bruno Retailleau et François Hollande. Tous deux nous demandent d'utiliser le 49-3. Elisabeth Borne également. Enfin, quand ils nous disent ça, sur quel budget? Je doute que le budget imaginé, même via un 49-3 par Bruno Retailleau, soit exactement le même que celui imaginé par François Hollande. Donc vous voyez bien qu'il faut d'abord répondre à la question de fond.
Maude Bréjon, de colère, les médecins, le monde agricole. Le monde agricole, est-ce que vous pouvez nous affirmer ce matin que l'accord sur le Mercosur ne sera pas en l'état appliqué à la France.
Notre position est claire et constante. L'accord n'est pas acceptable en l'état. Nous voulons un accord équitable et nous voulons un accord juste. En l'état, il n'est ni équitable ni juste.
Les médecins, est-ce que vous allez leur tendre la main? Ils commencent une grève dure.
Bien sûr.
Aujourd'hui pour 10 jours.
Bien sûr, ma collègue ministre de la Santé, Stéphanie Ris, leur a d'ailleurs adressé un courrier. Moi, ce que je veux dire ce matin, c'est que le projet de loi de finances pour la sécurité sociale, la loi de finances pour la sécurité sociale qui a été votée en décembre dernier, n'est pas une loi de régression. Elle prévoit une hausse de l'objectif national de dépenses.
Y aura-t-il une rencontre?
3%. Donc ce n'est pas un budget de régression sanitaire. Ce n'est pas un budget de régression sanitaire. Il s'inquiète également, par exemple, sur la question de la limitation des arrêts maladie.
Des quotas d'arrêts maladie, bon, pour certains.
Les arrêts maladie, entre 2019 et aujourd'hui, indemnisés par l'assurance maladie, ont augmenté de 25%. C'est une raison qui, je pense, permet à tout le monde de comprendre qu'il faut les encadrer. Mais enfin, on ne les limite pas. On pose un cadre, mais on ne les limite pas. On ne contrevient pas à la liberté médicale. Voilà. Donc, il y a un dialogue qui doit se poursuivre.
Si je vous entends, vous comprenez pas très bien pourquoi ils font grève.
Mais j'entends parce que c'est une profession qui fait face à des difficultés majeures. La première difficulté, c'est le nombre de médecins qu'on forme. Beaucoup de Français savent que il y a en France des déserts médicaux. Ils le vivent au quotidien, la difficulté pour trouver un rendez-vous, la difficulté pour trouver des spécialistes dans certains endroits. Et donc, c'est à ces questions-là qu'on doit arriver à répondre ensemble.
Merci, Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Bonne année à vous. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
RMC, Apolline Matin.
7h-9h. RMC, Apolline Matin.
8h50. Face à Canteloup.
Et quel bonheur de commencer l'année avec Nicolas Canteloup. Bonne année tous les jours. L'info revisitée par Nicolas Canteloup. Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, était mon invité ce matin. Tiens, elle est encore avec nous dans ce studio.
Oui, tout à fait. Pour une fois que j'ai l'occasion de parler d'autre chose que des problèmes de la France, du budget de l'État, du budget du PLFSS, des agriculteurs, je tenais à revenir donc sur l'international et de cette ingérence américaine au Venezuela. Et, stop, laisse tomber, mode, tu es gentil, tu laisses tomber.
Ah tiens, Monsieur le Président, bonjour, vous souhaitiez intervenir?
Oui, bonjour à toutes et à tous, et bien sûr, oui, bonne année. Écoutez, j'entendais Maude Bréjon parler d'ingérence américaine au Venezuela, écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce au président Trump, le Venezuela est donc débarrassé d'un dictateur sanguinaire, voilà, stop, tout est dit, hein, bravo Donald, comme on dit au Venezuela, comme on dit là-bas, ay Pepito, un, dos, tres, vamos a la playa, felicitaciones,
Oui, on a vu, vous l'aviez félicité tout de suite, hein, Monsieur le Président. Enfin, c'est quand même assez contraire au droit international.
Non, mais Apolline, mais arrêtez avec votre droit international. Hein, au point où on en est, vous avez vu l'état du monde, franchement. Hein, puis arrêtez de critiquer tout haut Donald Trump. Imaginez qu'il entende. Hein, moi, j'ai pas envie de me retrouver sur les chaînes info en flash spécial sur BFM, en breaking news, avec la CIA qui m'extirpe de l'Élysée en pyjama et sandales de piscine, tout ça parce que Trump veut juste offrir la Tour Eiffel à Mélania pour leur anniversaire de mariage, non?
Oui, je comprends. Merci, Monsieur le Président, en tout cas. On retrouve tout de suite Pascal Pro, tiens, pour son édito de rentrée.
Oui, bonjour ma chère Apolline, bonjour à tous, bonne année, surtout la santé, sauf au président Sarkozy. Fini les fêtes de Noël et du Nouvel An, ces moments où l'on se retrouve en famille à partager une grippe, une gastro-entérite.
Voilà.
Vous connaissez ça, 2026 commence à peine et on ne reconnaît plus notre monde tout fou le camp. Même notre Brigitte Bardot nationale, dont les obsèques auront lieu ce mercredi au cimetière marin de Saint-Tropez, face à la Méditerranée, comme pour mieux surveiller l'arrivée des phoques qu'elle aimait tant et des migrants qu'elle aimait moins. Heureusement, un homme veille sur notre Riviera, tel un phare, c'est Éric Ciotti. Oh,
Bon, merci. Merci, mon Pascal, de me citer dans votre édito, tellement brillant chaque semaine. Oui, Brigitte Bardot nous manque, il faut le dire, hein, chère Apolline, elle qui a dédié sa vie, il faut le rappeler, à la protection des espèces en voie de disparition. Hein, les phoques gris, les baleines bleues, les français blancs. Hein. Mais permettez-moi quand même de vous souhaiter à tous une bonne année, sauf bien sûr à Christian Estrosi.
Oui, évidemment. Merci, Eric Ciotti. Tiens, reprenez Pascal.
Oui, chez nous, l'insécurité de retour avec le cambriolage de la boutique du pâtissier de luxe Cédric Grelet. Mmh. Le butin s'élève à plus de 20 000 euros. En effet, les cambrioleurs ont dérobé pas moins de 3 tartes aux pommes et 2 éclairs au chocolat.
Oui, c'est le quotidien.
Seront-ils plus faciles à écouler que les bijoux du Louvre? Seul Laure Bécourt, notre désormais célèbre procureur de la République, saura nous rassurer.
Ah, comment va-t-elle?
Alors, concernant les 2 éclairs au chocolat...
Ah.
Et les trois tartes aux pommes, pour des raisons de confidentialité, vous comprendrez que je ne peux pas révéler... Oui, bien écoutez, ça tombe bien parce qu'on s'en fout, cher Laure. Car ce qui passionne les Français, vous le savez, c'est que Georges Clooney a obtenu la nationalité française. Et oui, on continue d'encourager l'immigration avec cette naturalisation d'un étranger gauchiste, ne parlant pas français, sans travail fixe, et dont la femme s'appelle, excusez-moi, je lis, Amal. La Moudine, voilà. Elle est née au Liban, voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Alors, le cinéma français est-il en danger? En tout cas, comme toujours, François Cluzet, notre célèbre François Cluzet, s'insurge. Putain, mais on est où là? Les Amerlocs, ils viennent chez nous piquer notre boulot. Est-ce que moi, Pauline, je vais aux States, hein? Jouer avec DiCaprio? Non, bon, on me l'a pas proposé, voilà. C'est vrai. Mais merde, la culture française, ça veut dire quelque chose, Clooney. Il a pas la culture. Il sait pas ce que c'est qu'un film populaire. Hein, tu le vois jouer Jeff Tuch, Somfrit. Hein, tu le vois faire les bronzés fonds du ski, Mr. Nespresso. Forget, tu as aucune chance, fonce. On the malentendu, ça peut marcher. Hein, non, il est pas crédible, Jean-Claude Duss du Kentucky, alors je préviens. Le cinéma français subventionné et qui fait pas d'entrée, c'est notre business à nous les Français. Merde.
Merci messieurs. Et pour analyser l'intervention américaine, on est déjà après la fin. Notre militaire maison 1, Vincent Moscato.
RMC, le super Moscato Show.
Putain, c'est dur ce matin, retour mastique. Compliqué ce matin, je suis fracassé. Tel que tu me vois, allez, j'ai plus. Tu as Apolline, je me réveille, hein, tu vois, je me réveille juste du réveillon.
Ouais.
J'entends de partout Maduro, putain, je crois que c'était un joueur des îles Tonga, moi. Non. Apparemment, c'est le carrément le président des îles du Venezuela. Voilà, donc le film d'action, des Américains, ils débarquent, sans avion de chasse, sans hélicoptère, et ils font pas le voyage pour tu sais, ils sont pas venus juste pour boire l'eau des pâtes, tu vois, les Américains, tranquilles, ils rentrent dans le pays, sans sonner à la porte, tu vois, tranquille, ils arrivent, ils s'essuient carrément les pieds sur la moustache de Maduro. T'as vu la moustache du gosse? La moustache, putain, un scratch de 3 mètres d'épaisseur, gros. Un balai brosse qui aurait couché avec un sourcil de Lecornu. Sous les narines, il s'écroulait un furet mort, le bébé gosse.
Donald Trump a déclaré qu'il s'occuperait désormais du pétrole vénézuélien.
Tranquille, gosse, comme à la maison, il prend le pétrole, il se sert. Tu vois, c'est le costaud de la récré qui te pète la gueule pour manger ton Kinder Bueno, tu vois. Trump, c'est sa manière à lui de faire les courses. Il va faire des forages de pétrole partout, ça va perforer dans tous les sens. Tu vois, Trump, c'est Rocco Siffredi bourré de Viagra qu'on lâche dans une fabrique de gruyère, gros. Il va te faire plus de trous que de gruyère, gros. Attention, je préviens, la bête est lâchée, elle est blanche, la bête. Il reprend ma cycle aussi.
Merci Vincent et merci Nicolas. Et demain sur RMC à 8h50. Dans un instant, les GG. Salut Alain, bonne année Alain, quel est le programme?
Bonjour à tous, on a un pays qui se retrouve en vigilance orange, neige, verglas. Oui, il peut arriver qu'il neige au mois de janvier, donc on empêche certains enfants d'aller à l'école. On dit à tout le monde, prenez vos précautions. Là encore, est-ce qu'on en fait trop? C'est trop 32-16 que ça se passe. On reparlera de la grève des médecins. On s'intéressera à la fin des avantages aussi pour les anciens ministres de l'Intérieur. Et Daniel Vaillant qui n'a pas conduit depuis 26 ans. animé. Comment je vais faire maintenant? Franchement, de qui se moque-t-on? Allez, à tout de suite avec les GG au 32-16.